Salut chers auditrices et auditeurs de Proxy Jeux, je suis Peter et bienvenue dans Sur le Ring, dans ce nouvel épisode de Le Pour et le Contre, une émission de Proxy Jeux, le podcast qui vous parle de jeux de société. Dans cette émission d'environ une heure, deux membres de la Proxy Team vont s'affronter à coups d'arguments pour encenser ou enfoncer un jeu de société. Et celui dont il est question aujourd'hui, c'est Seven Wonders Architects, un jeu d'Antoine Boza publié en 2021. Et pour en parler en bien et en mal, j'accueille l'équipe de la chronique autour du jeu, qui a décidé de faire sécession le temps d'une émission. Salut Flavien et Benofix.
Salut Peter.
Salut Peter, comment vas-tu?
Ah, moi ça va, et vous, vous êtes chaud?
Bah ouais, écoute, c'est comme un dimanche matin quoi.
Ah. Ouais, on commence doucement, la voix se chauffe, on n'a pas fait nos échauffements de voix.
Parfait, parfait. Ça,
on peut faire des vocalises un peu.
Ça va venir. Pour l'instant, je garde la parole. Mais en tant qu'arbitre, j'ai pas pour mission de vous réconcilier sur le jeu dont vous allez débattre. Néanmoins, j'espère que cela ne remettra pas en cause la production de nouveau autour du jeu. Il est prévu pour quand d'ailleurs le prochain?
Eh ben, il est prévu pour les prochaines chroniques. Mais est-ce que ça le remettra en cause? On verra à la fin de l'émission.
Donc les prochaines
chroniques.
En tout
cas, il sera pas sur Seven Wonders Architect parce que quoique il y aurait moyen de faire des trucs sur Seven Wonders de manière globale.
Vous avez des idées déjà d'un peu de thème ou pas encore?
Ah bah là on sait où on va aller. On va aller dans une auberge où il fait pas bon vivre.
D'accord.
Enfin ça dépend pour qui mais.
D'accord, super. Bon, avant de commencer le match, nous allons commencer par remercier notre partenaire La Caverne du Gobelin qui nous aide à réaliser ce podcast. La Caverne du Gobelin, ce sont 4 boutiques physiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Mais c'est aussi un site de vente en ligne, cavernedugobelin.com, sur lequel il vous est possible de vous procurer Seven Wonders Architect à 36,90€ seulement. Nous remercions également nos donatrices et donateurs qui soutiennent ce podcast.
Et aujourd'hui, on remercie Hervé, Docteur Cheux, Aldébaran, Philippe Leray, Frédéric,
Arnaud VM, Yann Couderc, Jernier Lolo et Hammer, à qui on fait un spécial ouais. Coucou, hein, évidemment.
Puisque... Bien sûr.
Alors, sauf si c'est pas notre Hammer, mais ce serait quand même étonnant.
Bah, je pense que si.
Donc gros bisous à lui. Et c'est le retour de Le Pour et le Contre, effectivement, qui continue cette année. Pour les trucs internes, on a fait une équipe où on a discuté du format et on essaie de déjà déterminer les jeux qu'on va faire dans toute la saison et tout. Mais on devrait continuer, en tout cas, si tout va bien. Un épisode tous les deux mois, toujours.
Super. Donc, nous remercions aussi toutes celles et tous ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, évidemment, et plus encore, celles et ceux qui prennent leur plume numérique et de leur temps pour nous écrire leurs commentaires. La dernière émission de Le Pour et le Contre, diffusée en juin dernier, a été consacrée à Cascadia, majestueusement arbitrée par Dédé Schutz, pris entre les arguments favorables de Paul Gara et ceux plus que mitigés de Flavien. Elle a recueilli 3 commentaires en bas du billet de l'émission accessible sur proxy-jeux.fr. Alors nous avons Arthur, qui n'a pas aimé son unique partie de Cascadia, qui ne l'a pas suffisamment fait vibrer émotionnellement. Il regrette aussi le thème plaqué, mais reconnaît que la mécanique fonctionne très bien. Nous avons Kinarb, qui ne connaissait pas le jeu à l'époque de son commentaire, et qui remercie les protagonistes de l'avoir éclairé sur son contenu, dans une émission très chill et pleine de bienveillance, Dixit Kinarb. Et enfin, un long commentaire d'un certain Le Pion Fesseur, qui en remet une couche, voire une deuxième, après celle d'Arthur, contre ce jeu, allant jusqu'à le qualifier de jeu apathique.
Rien à voir avec Jean-Michel. Hein.
Non, qu'on salue.
Ouais, s'il nous écoute, hein, Jean-Michel. Non, j'espère qu'il nous écoute pas.
Alors Flavien, est-ce que tu veux revenir là-dessus, comme tu étais dans l'émission?
Bah non, après le Pion Fesseur, je sais très bien qu'il aime pas. Je pense qu'il a mis un commentaire parce qu'il s'est dit vraiment, il y en a pas assez quand même. C'est le truc. C'est vrai qu'il n'y en a que 3. Mais après, en même temps, c'est pas un jeu qui déchaîne les émotions. Donc c'est pas non plus un jeu qui déchaîne les commentaires, j'imagine. Non, mais moi j'ai dit ce que j'avais à en dire. J'ai pas rejoué depuis. Je sais pas si toi, Ben, tu as déjà joué ou pas.
Moi j'ai fait une partie lors d'un week-end proxy jeu, je crois. Pas cette année, l'année dernière, il me semble. Et ouais, je. Voilà.
Rien à dire, c'est
que. Non, il y a un truc malin et intéressant côté mécanique, mais pareil, ça a un peu fait plouf de mon côté, quoi. C'est. Pas forcément envie d'y revenir.
Tu veux dire que t'as joué les saumons, c'est ça pour gagner.
C'est ça.
Et toi, Peter, tu as joué, ouais?
Ouais, oui, j'y ai joué. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, hein, franchement. J'aurais pas d'avis négatif là-dessus. C'est un petit jeu sympa, ouais. Un petit jeu détente. Voilà. À jouer avec des gens qui sont pas forcément des grands joueurs, ça passe bien. Et moi, je me fais pas chier. Donc, c'est pas mal. Alors, avant de commencer l'émission du jour, donc qui est consacrée à Seven Wonders Architect, je rappelle la première règle de cette émission. L'attaque de son adversaire n'est pas autorisée, même en cas de mauvaise foi manifeste. Bon, il n'y a personne qui est concerné ici autour de cette table, je suis sûr.
On ne touche pas aux mamans.
Donc on ne s'attaque pas personnellement. Seul le jeu, et rien que le jeu, mérite vos commentaires acerbes ou élogieux. Par ailleurs, il est entendu que nous avons tous conscience du travail fourni par de nombreux êtres humains qui ont collaboré pour imaginer, créer, fabriquer, distribuer ce jeu. La deuxième règle de cette émission, c'est pour eux. Il n'est pas question ici d'attaquer personnellement les individus qui ont participé à cette création. Par contre, la critique de votre travail sur ce jeu en particulier ne sera pas ménagée. Notez qu'en aucun cas les arguments avancés ne peuvent être transposés à vos autres productions ludiques, qu'elles soient antérieures ou ultérieures. Non, sauf mention contraire explicite, ils ne concerneront que Seven Wonders Architect. Benoît Fix et Flavien, êtes-vous d'accord pour respecter ces deux règles essentielles ?
Faut poser sa main sur la Bible et dire « je le jure ».
Non, sur le jeu, sur la boîte du jeu.
moi, oui, non. Hein, il y a quand même... Enfin, dans le travail critique, je n'hésite pas, quand je trouve des intentions néfastes de la personne, à critiquer la personne. Si, par exemple, c'est pas le cas ici, hein, mais je vois que la production de la personne représente une idéologie profondément que je juge néfaste, entre guillemets, dans ce cas-là, effectivement, je vais axer mon axe critique là-dessus. Mais et si on en parlera, mais non, c'est... Mais c'est bien de le rappeler, effectivement, que notre critique... on sait qu'il y a des gens qui sont gentils, qui essayent d'en vivre et tout, et qui font de leur mieux. Ça veut pas dire que le travail à la fin est bien, quoi, comme non, partout. Quoi.
Exactement. Voilà. Et puis c'est pas parce que ce jeu-là, vous pouvez ne pas l'aimer, qu'un autre jeu fait par le même éditeur ou le même auteur ne serait pas bien, quoi. Il faut pas généraliser non plus. À toutes les productions.
Oui, voilà. Clairement. Et puis, déjà, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Ça, c'est une première chose. Et puis, voilà, on peut faire des erreurs aussi. Sans s'en rendre compte quand on a le nez dans le guidon et que... Voilà.
Ouais, on parlera forcément d'autres Seven Wonders à certains moments.
Il y a des chances.
Mais c'est vrai que la plupart, le critère ici, c'est vraiment Seven Wonders Architect. Et je le redis parce que je crois pas que je l'ai dit souvent chez Proxy Jeux. Mais quand on n'aime pas quelque chose, on n'en tire aucun intérêt. Enfin, en tout cas, moi, à part des intérêts critiques pour faire évoluer ma pensée ou quoi. Mais moi, je préfère tout aimer, en fait. Moi, mon objectif, c'est d'aimer tout ce que je fais dans ma vie et de prendre du plaisir à chaque moment de mon existence. Donc, en fait, quand un jeu ne me plaît pas et que je dois le critiquer, j'en tire aucun plaisir. Voilà, j'ai pas de plaisir non plus à dire du mal du travail de quelqu'un, quoi. Voilà.
Non, je pense qu'on est tous dans cette même optique à Proxy Jeux. Nous allons pouvoir commencer le match, alors. Alors, le tirage au sort... fait par moi-même sans huissier, a désigné Benoît FX pour prendre la parole en premier pour une courte introduction et un premier avis global sur le jeu. Et Flavien aura donc le privilège du dernier mot de conclusion. Pas sûr que tu n'en fasses qu'un seul d'ailleurs, ouais. Flavien, à mon avis.
On verra.
Voilà, allez Benoît FX.
Que dire ? Je dirais que Seven Wonders Architect, c'est une très belle transformation de Seven Wonders pour le rendre plus efficace, plus accessible, pour l'ouvrir au grand public, et que c'est une belle réussite par rapport à cet objectif-là. Et que j'arrive à l'apprécier, malgré cette simplification, entre guillemets, du jeu d'origine.
D'accord. Merci Benoît FX pour cette ouverture. Tu seras donc visiblement dans le camp du pour dans cette émission.
Tout
et
à fait.
Il y a des chances que Flavien soit dans celui du contre, à qui je laisse maintenant la parole.
Ouais, c'est un jeu. Alors moi, j'aime bien faire plein de parties de jeux que j'aime pas pour essayer de mettre le doigt sur ce que j'aime pas dedans. Là, pour le coup, ça veut dire d'acheter que j'ai beaucoup joué sur BGA. J'ai une trentaine, quarantaine de parties sur BGA et une ou deux seulement en physique. Mais j'avoue que mon avis n'a pas évolué et s'est conforté un peu avec le temps. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un jeu très facile d'accès, mais il y a plein de jeux faciles d'accès que j'adore, et pour lequel je suis le public et la cible. Et celui-là, à chaque partie que je fais, je me dis, en fait, j'y trouve rien en termes d'espace de choix ou d'implication des choix, qui font que, je m'ennuie affreusement, et en fait, plus le temps passe, et plus j'ai eu l'impression, effectivement, que tout le monde autour de la table, en tout cas sur BGA, ce qui est déjà... et un filtre, hein, puisque c'est des gens qui jouent quand même sur BGA. C'est pas forcément les personnes qui vont découvrir le monde du jeu de société, comme tu l'as dit, Ben, mais où il y a des stratégies où en fait la partie ça tourne beaucoup autour du pif et où moi je m'ennuie comme un rat mort. Et ce qui est représentatif de pas mal de jeux de Antoine Boza de ce format. Je pourrais donner quelques exemples, mais j'ai l'impression qu'il est pas bon pour ce genre de jeu-là, quoi, de ce niveau de complexité.
Ouais, après, il peut y avoir un biais sur BGA où on a le clic facile quand même, mais ça peut faire tourner
Bien sûr.
rapidement les parties avec moins d'immersion dans le jeu quand on doit prendre les cartes, quand on discute avec les personnes qui sont autour.
Ouais, évidemment.
Ça change complètement l'expérience de jeu aussi sur certains jeux, peut-être celui-ci d'ailleurs. Ça peut influencer grandement. En tout cas, merci Flavien pour cette introduction. Donc le déroulé de l'émission sera séquencé en deux parties. En premier lieu, Benoît Fix et Flavien débattront du niveau d'accessibilité du jeu. Est-ce qu'il est grand public ou est-ce qu'il est conçu pour rester à la niche? Et en second lieu, le débat se poursuivra sur l'intégration de ce jeu au sein de la gamme commerciale des Seven Wonders. Alors qui, pour commencer, à nous parler de la qualité de réalisation de ce jeu?
Bah, je pense que Ben, toi, t'as plus de parties que moi en vrai, parce que du coup,
en physique,
ouais, la question qu'on va se poser, c'est effectivement, est-ce que, en quoi et avec quelle nuance, est-ce que c'est un jeu si grand public que ça? Tu vois, c'est ce que tu disais toi dans tes arguments, c'est voilà le côté simplification de Seven Wonders, qui était déjà une simplification de plein de trucs. Quoi.
Ouais, tout à fait. Alors pour le contexte, je sais pas si j'ai j'ai beaucoup de parties comme toi sur BGA. J'en ai peut-être un peu plus que toi avec le jeu physique, mais pour le contexte, moi c'est un jeu que j'utilise beaucoup en animation avec l'association. Donc j'ai une association de jeux de société et on fait des animations. Notamment pour la mairie, etc. Donc, avec des publics qui sont très néophytes ou éloignés du monde du jeu de société.
Et quel âge à peu près comme public?
C'est vraiment tout âge. Hein, ça va. Je pense que on conseille. Enfin, on prend pas d'enfants en dessous de 8 ans généralement parce qu'on n'a pas de jeu adapté et que voilà, c'est un autre métier après. En dessous d'un certain âge, c'est un peu un autre métier. Mais ouais, à partir de 8 ans et puis après jusqu'à des adultes, hein, enfin même des personnes même un peu âgées.
Des seniors.
Des seniors. et du coup, voilà, je l'ai pas mal animé. Après, je sais pas si j'ai pas fait 15 parties en physique non plus. Hein. Je dois être à 4-5.
Tu peux voir plein de réactions de table en fait.
Ouais, tout à fait.
C'est intéressant.
Tout à fait. Donc moi, je trouve que c'est un jeu grand public au sens où il est quand même très simple à expliquer. Et l'édition, alors on pourra en revenir et on peut considérer et à juste titre qu'il est un petit peu surédité, mais il est calibré pour que tu sortes les petites boîtes, que les personnes aient directement la règle de leur merveille. La mise en place est ultra facilitée par cette édition. Et c'est expliqué, honnêtement, hein, c'est expliqué en 5 minutes. Après, il faut peut-être revenir des fois sur juste les pouvoirs. Enfin, les pouvoirs des merveilles sont expliqués, mais juste les pouvoirs des fois des jetons science qu'il faut repréciser ou avec l'aide de jeu, mais c'est vraiment un jeu qui est en animation et avec du public néophyte immédiat quoi. C'est ce qui est pas le cas de. Alors j'aborde un peu la deuxième partie, mais ce qui est beaucoup moins le cas que son illustre grand frère ouais. Seven Wonders premier du nom.
Alors peut-être pour préciser à ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être jamais joué au jeu ou jamais joué au jeu en physique, en tout cas, il y a un conditionnement du matériel qui est un peu particulier dans ce jeu. Donc c'est ce que t'évoquais Benoît Fix.
Ouais, vous avez des photos dans le billet sûrement.
Ouais, voilà. Mais pour expliquer, chaque joueur en fait va recevoir une boîte avec une boîte plastique avec un couvercle qui est incluse dans la boîte standard hein, du jeu. De toute façon, il n'y a qu'une seule version, il me semble. Et cette petite boîte contient tout le matériel destiné au joueur pour qu'il puisse installer son espace de jeu, quoi.
Et sa merveille et compagnie, quoi.
Et ça, voilà, sa merveille, ses cartes, le petit sabot où mettre ses cartes, voilà. Ce genre de choses. Donc c'est assez original d'avoir ce type de conditionnement. La plupart du temps, on a des sachets plastiques qui sont fournis dans une boîte de jeu, et encore pas toujours, mais parfois c'est ça. Et c'est à nous de reconstituer, on va dire, le matos de chaque joueur dans chaque sachet plastique. Enfin, chacun après a sa manière de faire. Il y en a qui préfèrent ranger tous les pions joueurs dans un même sac. Mais si on veut le faire, généralement, il faut un petit sachet plastique. Là, c'est carrément des boîtes. Je pense que c'est comme le même matériau que le thermoformage, quoi. C'est
un
thermoformage.
Et après, il y en a comme Père Castor qui achète des inserts pour des jeux qu'ils n'ont pas encore ou quoi. Mais,
Donc, c'est pas des inserts qui restent dans la boîte. C'est pas, c'est un thermoformage, mais qu'on va sortir qui est amovible. Enfin, c'est assez particulier. Faut regarder les photos pour bien comprendre. Voilà. Et ça renforce l'accessibilité dont parlait BenoFX, du coup, si je comprends bien.
Ouais, tout à fait, parce que pour moi, la mise en place d'un jeu, c'est déjà une première, c'est déjà un premier défi, une première barrière pour certaines joueuses et certains joueurs.
Ouais, puis ça fait peur. Ouais.
Et ouais, ça peut faire peur. Et là, c'est vraiment, tu prends ta boîte, tu mets ton truc, je sais plus si c'est à ta gauche ou à ta droite, je sais plus en tête, mais voilà, tu mets ton petit deck d'un de tes côtés, tu mets ta merveille à l'envers et puis en avant, Guingamp, quoi.
Ouais, et c'est assez intéressant, on salue Guingamp, mais d'un point de vue aussi, ouais, de. Tu sais, ça permet à tout le monde dans la préparation d'être actif ou active. Parce que sinon, tu sais, en général.
Ouais, t'en as un qui installe et puis l'autre.
Ouais, autres, alors parfois on s'aide un petit peu et tout, on dit, ah bah tiens, toi tu peux mélanger les cartes ou quoi. Mais là, du coup, il y a un moment quand même presque rituel, je crois que c'est Paul Gara qui aime bien le rituel un peu de l'installation et tout, et tu vois, où. Souvent, la mise en place et la durée est présentée comme un défaut, alors que, par exemple, elle disait que pour elle, ça fait partie du plaisir de jeu.
Ouais, clairement. Ouais.
Et là, chaque personne, c'est rigolo, c'est un peu comme une entrée en méditation, si tu veux.
Où, tu sors ton petit
tu
truc.
Tu te prépares au jeu, mais chacun de ton côté. Ouais, et c'est pas inintéressant. Bon, moi, ça sur BGA, pour le coup, bah, du coup, tu l'as pas ce plaisir de jeu.
Bah, moi, ça, ouais, clairement.
Mais,
clairement.
Ouais,
c'est vrai que souvent, on range un jeu tous ensemble, mais la mise en place et l'installation
ça
du
dépend,
jeu.
Parce qu'il y a des gens, ils rangent n'importe comment.
Ouais, alors moi, j'en suis, ça me dérange pas. Mais bon. Et d'ailleurs, il y en a que ça choque quand je range mon jeu n'importe comment dans une boîte. Je sais qu'il y en a qui écoutent et qui reconnaîtront.
Moi, c'est ça, quand je mélange mes cartes et que les cornes et tout, les gens font des 5 ans.
En fait, c'est juste un choix de. Tu prends du temps au début ou à la fin, quoi. Tu vois, si, soit tu ranges bien à la fin pour prendre moins de temps au début. Soit tu prends du temps au début pour t'en foutre à la fin. Enfin, c'est juste déplacer le problème.
Il y en a qui aiment bien tout simplement quand les choses sont bien rangées, que ce soit leur jeu, leur foyer.
C'est Marie Kondo.
Ouais.
Juste pour revenir du coup là-dessus, donc je disais, il y a ce côté un peu peut-être un peu méditation transcendantale de la mise en place, chacun de son petit côté dans sa petite bulle. Ce qui, on en parlera, mais on pourrait croire que c'est un multiplayer solitaire, tu sais, comme ils disent les anglophones. C'est pas le cas. Enfin, moi je trouve que c'est pas le cas. Je trouve que l'interaction est présente, j'aime pas la façon dont. Ce qu'elle donne comme truc, mais je trouve que c'est pas un jeu sans interaction du tout. Juste ce côté-là, donc on a dit c'est Repoprod qui est à l'édition, enfin je sais pas si on l'a dit, mais on le dit maintenant.
Non, c'est vrai qu'on l'a pas dit.
Donc Repoprod qui est quand même un éditeur bah, qui s'est lancé maintenant il y a plus de 15 ans, enfin il y a une quinzaine d'années, Time's Up et compagnie. Enfin,
est-ce qu'il est nécessaire de préciser que c'est Repoprod qui fait un jeu Seven Wonders?
C'est eux qui font Seven Wonders, qui font Seven Wonders Duel, et qui font celui-là, mais du coup c'est un éditeur qui a de la bouteille. Qui, alors sans parler de la surédition qui est un autre sujet, mais qui en termes de attention portée à l'édition en général, ça va. J'ai pas de tu vois, c'est eux qui ont fait Just One aussi, et Just One fonctionne énormément par son édition. C'est-à-dire que ça marcherait pas autant si c'était pas édité comme ça. Et clairement, ils pensent leur édition en fonction du but du jeu. Et ce que tu dis, c'est d'ailleurs le fait que ça simplifie la mise en place parce que on veut toucher un public plus large, que donc c'est des enjeux financiers, hein, c'est juste pour vendre à plus de personnes et que pour que les personnes puissent y jouer plus facilement pour qu'il n'y ait pas ce frein. Et ben ce truc-là, effectivement, c'est malin. Moi, j'adorerais que dans Route, par exemple, ce soit le cas aussi, tu vois, où t'as un petit peu ça, t'as ton plateau et tout, mais c'est pas fourni directement.
Que t'aies une petite boîte par...
Après, forcément, ce que t'as cité la surédition, c'est que c'est un jeu à 37 balles. Et alors moi je vais le dire clairement, je m'en fous du prix d'un jeu, c'est-à-dire ça va pas influer pour moi sur l'aspect critique du jeu. Toi Peter, je sais que t'avais un avis un peu différent là-dessus, c'est-à-dire qu'à qualité égale, bah du coup tu prendras moins cher, quoi.
Oui, bien sûr, ouais, non, le prix d'un jeu, moi je m'en fous pas, hein. Quand t'achètes un jeu un peu cher et puis qu'il y a finalement 50 cartes dedans, voilà, même si le plaisir ludique est là, ça fait un peu mal, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien que le prix du jeu reflète aussi le prix du matériel, enfin le prix qui a nécessité, enfin qui se reflète dans son matériel. Ouais.
Oh, mais alors, le prix du matériel ou le prix de la qualité ou de l'intérêt du jeu, parce que dans ce cas, tu vois, si on dit que le prix doit refléter le matériel, c'est exactement ce qui se fait actuellement. C'est pourquoi Seven Wonders Architect est à 37 balles, c'est parce qu'il y a du matos dedans. Tu
ouais, vois. Bah moi ça me choque pas, 37 balles okay. Pour ce type de jeu.
Bah moi,
ouais.
Effectivement, vu le matériel, mais moi, du coup, la question que je me pose, c'est qu'à un moment aussi, à quel point est-ce que c'est pas une manœuvre commerciale de se dire, on veut le vendre à ce prix-là, du coup, on va faire la production comme ça, comme Splendor, etc., où en fait, Splendor, tu pourrais avoir les jetons, alors... Ça joue sur l'expérience de jeu et tout ce que tu veux. Là, en l'occurrence, dans Seven Wonders, je sais que ça joue même sur l'accessibilité du jeu. Oui. Mais à quel moment, pour le vendre plus cher, tu te dis, avec des arguments que tu vas pouvoir dire c'est pour le rendre plus accessible, etc. À quel point est-ce que c'est vrai, à quel point est-ce que c'est pas pour mettre un jeu à 37€ alors qu'il aurait pu coûter 25€. Et dans l'optique d'un jeu grand public, 37€, quand tu connais pas le jeu de société et que tu rentres, tu vas peut-être pas prendre un jeu tout de suite à 40 balles, quoi. Surtout que, alors tu vois, on va te le vendre et tout, et surtout, bon, on l'a pas dit non plus, mais il a eu quand même l'As d'Or. Donc il y a le petit label et tout, machin. Le nom d'Antoine Boza pour ce grand public-là, ils en ont rien à foutre. Ils connaissent plus Seven Wonders, je pense, à la limite, ils doivent connaître un truc que Antoine Boza.
Ils connaissent pas.
Repoprod, n'en parlons même pas. Enfin, il n'y a pas de notion d'éditeur et tout pour ce grand public-là potentiel. Par contre, le prix.
C'est pour ça que le prix est important.
Le prix est important. La boîte et tout aussi, bon, c'est pas Coimbra là aux illustrations, mais bon, je trouve que. Je sais plus qui c'est qui a fait l'illustration, c'est Étienne Ebinger, je pense qu'on le dit comme ça, ou Ebinger, ça va dépendre d'où il vient. Je pense que ça doit être Ebinger. Je trouve qu'il est resté un peu dans les carcans de Seven Wonders quand même.
Oui, mais c'est peut-être aussi ce qu'on lui a demandé, hein.
Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que d'un point de vue visuel, la boîte peut attirer en boutique, tu vois, de la même manière que, même plus que Seven Wonders de base, qui est un petit peu vieilli, je trouve, en termes de visuel.
Ouais, ils ont fait une réédition récemment, où ils ont repris un petit peu tout ça. Mais oui, et puis...
La deuxième édition est un peu plus flashy, quoi.
Ouais, mais c'est marrant, du coup, le Seven Wonders réédité, tu vois, est noir, en fait. C'est une boîte noire avec une illustration. Et là, du coup, sur le Architect, c'est quelque chose de très blanc, beaucoup plus contraste... Enfin,
et lumineux, ouais.
Plus clair, lumineux, ouais.
On dirait presque un ciel de Vincent Dutray. Et ouais, mais du coup, c'est vrai que cette question du prix, qui, effectivement, alors que ce soit construit pour payer, pour aboutir à ce prix, ou que... Le fait d'éditer comme ça, ça a abouti à ce prix parce qu'il a fallu le mettre à ce prix-là parce que vous ne pouvez pas faire autrement.
Ah, c'est pas sachant la même... que... Ça change quand même, enfin, tu vois, l'intention n'est pas la même quand même. Tu vois, moi, je reste...
Ça change l'intention, alors, tout à fait.
On ne saura pas, tu vois, mais moi, je respecte plus une démarche de on veut rendre le jeu accessible et augmenter l'expérience du joueur avec du matos et du coup, ça, on arrive à ce prix-là plutôt que la démarche inverse, tu vois.
Effectivement, l'intention joue beaucoup sur le jugement des personnes derrière, pour le coup, tu vois. Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Sachant que eux, l'éditeur va te dire que c'est pour l'accessibilité. Ils vont pas dire c'est parce qu'on voulait faire du fric avec. Mais le truc, ouais, c'est que, effectivement, ben, le grand public, donc le public potentiellement visé, on parlera après des mécaniques, hein, par rapport à ça, et est-ce que c'est un bon jeu grand public, entre guillemets. Mais, je trouve que le prix peut quand même éloigner et que c'est Alain Ballet, je crois, de Blue Cocker. Vous vous rappelez à l'époque où on avait parlé de Meeple War et tout, et où il disait ouais, mais on s'emmerde entre guillemets à faire des trucs, justement, on baisse la qualité parce qu'en fait on veut aussi baisser le prix. Et en fait, c'est le prix à payer, entre guillemets. Bon, alors il y a une inflation du prix des jeux ces dernières années et tout, mais est-ce que l'accessibilité, au-delà de la mise en place, ça passe pas aussi par un prix plus accessible qui dépasse pas les 20-25€? Ça... Encore une fois, moi je suis pas concerné parce que j'ai pas de problème à mettre les 40€ dans un jeu que je trouverais bon et qui n'a pas le matériel comme ça, et qui en plus, pareil, je fais pas le... L'éditeur défend souvent le... On vise ce type de public met ce prix-là. Tu vois, la corrélation taille de boîte prix, et d'un autre côté, public visé prix.
Bah oui, oui, enfin moi je pense que c'est évident que dans la réflexion commerciale, dès le départ, c'est posé, hein, la question est posée. Hein.
Pour le coup, 37€, c'est rarement un prix visé pour le grand public, tu vois. Enfin, du côté de l'éditeur, quoi, c'est bizarre.
Ouais, je suis d'accord que niveau... Sur le côté prix, l'accessibilité est effectivement moins en adéquation avec les mécaniques et ce que veut être le jeu. Mais faut... Enfin, je sais pas, on peut aussi se dire que le public visé n'est pas un public qui
c'est un public qui achète des jeux de société déjà, ouais.
Voilà, qui consomme autant de jeux que nous on peut le faire, et que du coup se dire tu vois, sur un cadeau de Noël ou une fois, tu vois, sur un truc un peu j'achète un jeu.
Ouais, bien sûr.
Mais c'est vrai que 37€, ça reste un prix conséquent.
Ouais. D'ailleurs, il est sorti un petit peu avant Noël, hein, clairement la cible
octobre,
clairement la cible c'était qu'il soit acheté en novembre pour être sous le sapin d'un bon nombre de personnes, hein, donc
Après, il y a aussi l'accessibilité pour les daltoniens. Ça, les daltoniennes, c'est quelque chose qu'on dit souvent aussi chez Proxy Jeux et tout. Les questions d'inclusivité à tous les niveaux. Là, c'est le cas. Et bon, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans les jeux, mais c'est toujours bien de le remarquer parce que c'est pas encore toujours le cas.
Ouais, fréquent, mais pas systématique,
ouais,
quand même.
C'est ça.
Hein. Ouais, non, loin de là. Hein. Ouais. Oui, là, il y a un effort qui a été fait. Enfin, il y a une petite astuce qui a été mise en place pour que justement chaque couleur soit associée à un symbole.
Ouais.
Voilà. Moi, j'y avais joué. Je l'ai découvert là en lisant les règles que je n'avais jamais lues parce qu'on m'avait expliqué le jeu. Donc, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un symbole spécifique pour les daltoniens. lien. Donc,
ouais, c'est ce que j'allais dire. Encore une fois, je trouve que c'est bien édité de ce côté-là parce que c'est discret et c'est efficace et c'est pas un truc, tu vois.
Presque même, ça décore.
C'est pas un gros symbole.
Ouais, ça décore les cartes, ça amène une petite.
Pour les gens qui n'ont pas vu les cartes, en gros, c'est la carte est d'une couleur, mais la séparation de l'illustration, en gros, et du pouvoir, enfin, de ce que la carte fait, il y a un petit liseré qui pourrait être un liseré qu'on pouvait effectivement penser décoratif, mais ce liseré, il a des symboles qui sont différents en fonction des couleurs. C'est soit des triangles, soit des petits ronds, soit des petits.
Ouais, c'est très élégant comme façon de faire pour le coup. Là aussi, on reconnaît la patte repeintre dans la partition.
Voilà, et les formes sont blanches.
Ouais, et si on prend un Sea Salt and Pepper ou je crois que c'est Bombix qui a mis en place un système, ça fait un peu plus collé, alors que là, c'est carrément intégré de manière thématique et ergonomique et esthétique et tout. Je trouve ça assez brillant, effectivement, en termes d'intégration. Et en plus, Peter, toi, tu es touché par mal qu'est le daltonisme.
Oui.
Et tu disais que tu l'avais jamais remarqué. Ça veut dire que même le choix des couleurs est quand même pas complètement con, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais. Les couleurs sont assez contrastées. Hein. C'est un rouge vif, un vert vif, un bleu vif. Le problème quand on est daltonien, c'est surtout les couleurs pastel ou très claires. Surtout quand le fond est lui-même clair. Mais là, sur toutes les cartes, déjà le fond est toujours de la même couleur. Il est un peu blanc cassé, blanc écru, enfin clair, en tout cas, avec une couleur de la carte qui est très contrastée et qui est mise par-dessus. Et il n'y a pas de fusion de couleurs. C'est déjà, en tant que tel, un jeu qui est tout à fait jouable par des daltoniens légers, comme c'est mon cas. Et en plus, il y a ces symboles qui renforcent l'information. Donc, c'est très bien.
Et c'est vrai que quand tu vises le grand public, en fait... Il y a une question de cohérence. C'est comme les jeux qui parlent d'écologie ou de nature, ou de nature, parce qu'il y a peu de jeux qui parlent vraiment d'écologie, mais en tout cas de nature, et qui sont fabriqués en Chine et tout. Tu sais, on a tendance à le reprocher encore plus. On dit c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Pour des jeux grand public, ignorer l'inclusivité, c'est d'autant plus regrettable que sur... Alors, tous les jeux devraient, entre guillemets, le prendre en compte, hein, mais quand tu vises le grand public, c'est d'autant plus regrettable quand effectivement tu fais pas gaffe à ça. Les règles sont pas écrites de manière inclusive, par contre, hein, c'est les joueurs toujours. Alors ça, c'est Repoprod qui continue d'être là-dedans, je pense même.
Justement, on peut peut-être revenir sur les règles, parce que VenoFX, tu nous disais que t'aimais bien ce jeu-là parce que tu pouvais l'expliquer rapidement, en fait, à des personnes qui y ont jamais joué. Est-ce que la règle aussi est écrite dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle peut être comprise assez facilement par des personnes qui sont pas guidées et qui veulent y jouer et qui l'ont reçu à Noël par un grand-parent et qui doivent se débrouiller tout seul pour s'y mettre, quoi.
Alors, je vais avoir du mal à juger parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment étudié la règle en détail puisqu'on m'a expliqué le jeu et que le jeu étant relativement simple, je ne suis pas retourné beaucoup sur la règle. Je l'ai peut-être déplié pour regarder ou pour aller voir des effets des jetons science. Mais effectivement, j'ai pas lu la règle en détail. Je sais pas si Flavien, toi.
On peut dire qu'elle est pas très longue.
Non, elle est pas très longue. C'est un triple A4 qui se.
Il y a 6 petites pages.
Ouais,
quoi.
Et puis en plus, la dernière page, c'est fin de partie, comment on joue à deux, et après t'as effectivement l'aide de jeu pour les effets. Mais je pense qu'on peut s'en servir de cette règle pour parler justement de mécanique. Et lié à la fois l'écriture de la règle et la manière dont elle fonctionne, puisque c'est venant d'Ordre Architecte, donc il s'agit de construire sa merveille, et en gros en récoltant des ressources. C'est un jeu de collecte de ressources, et comme dans d'autres Seven Wonders, il va y avoir d'autres axes de développement. La partie, elle finit quand quelqu'un construit sa merveille, et à ce moment-là, on compte les points, et la personne qui a le plus de points gagne.
C'est ça. Il y a plusieurs manières de scorer, comme dans les autres Seven Wonders d'ailleurs, mais on s'arrête on termine le tour de celui qui a terminé sa merveille en premier. Donc, tout le monde n'a pas forcément le même nombre de tours.
Et alors, du coup, je rebondis sur l'écriture de la règle, qui est plus le point éditorial, parce que c'est la retranscription de comment le jeu fonctionne, hein, du game design. En termes d'accessibilité, au-delà de la facilité de jeu que t'as pointé, Ben, quand tu l'expliques, les gens arrivent à jouer facilement. Le truc, c'est qu'à un moment, le grand public...
Il faut qu'ils lisent la règle, personne ne leur explique, effectivement.
Typiquement, c'est le gros reproche que j'ai à des cryptos et qui m'énerve de fou. Voilà, c'est un de mes jeux préférés de la Terre entière.
C'est aussi dur à expliquer qu'à lire des cryptos.
En plus. Et c'est un des grands reproches que j'ai, c'est ce côté, c'est pour moi un des meilleurs jeux du monde, sans hésiter. Mais purée, qu'est-ce qu'il est chiant à expliquer et qu'est-ce que c'est difficile de toucher ce public qui pourrait adorer ce jeu.
Oui.
On n'en est pas là avec Seven Wonders.
C'est pour ça que Codename a énormément marché par rapport à
Mario.
C'est parce que c'est beaucoup plus immédiat et facile à comprendre. Alors que Decrypto est beaucoup plus intéressant, je suis d'accord avec toi.
Ouais, moi je préfère aussi, j'adore Codenames aussi évidemment. Et donc, dans l'écriture de règles, parce que moi, donc, quand je l'ai découvert, c'était sur Board Game Arena, et en général, ce que j'essaye de faire, alors maintenant il y a des tutos et tout, à l'époque, j'avais pas encore le tuto pour celui-là en tout cas, qui sont quand même bien pratiques hein, en général, je trouve ça plutôt cool sur BGA, et qu'est-ce que ça te fait un petit peu jouer et tout. Donc, moi en général, je vais voir les PDF, et ou bien si j'ai le livret de règles, je lis la règle. Et j'avoue que quand je suis tombé sur cette règle, je me suis dit waouh! Mais juste en termes de structure, tu vois, juste avoir la règle.
Oui, en plus, le PDF, comme,
alors,
ouais, comme
c'est la version PDF. Hein, donc,
ouais, voilà. C'est ça. Il faut le lire dans l'ordre des pages, quoi, et pas dans l'ordre du PDF.
Bien sûr, mais bon, ça, à la limite, ça va, mais je me suis dit, waouh, enfin, je vois le truc et je me dis, là, t'as perdu quelqu'un qui ouvre la règle tout de suite, notamment parce que c'est écrit tout petit. Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'est écrit tout petit.
Ah, il faut zoomer, Flavien.
Ouais, mais en vrai, tu peux pas zoomer.
Ah, si, sur ton PDF,
oui.
Tu peux zoomer.
Non, mais dans le vrai livre, il faut aller chercher.
Ah, bah non, ça, c'est sûr.
Et surtout, moi, c'est cette page de tour de jeu. Alors, au début, j'ai eu peur parce qu'en fait, je voyais une séparation et je me suis dit, attends, ils ont séparé le tour de jeu sur deux pages avec des flèches qui font différentes. En fait, non, ça va, c'est sur une double page. Donc, tu ouvres le truc, t'as le tour de jeu sur ta double page. Mais purée, toutes ces flèches-là, tous ces petits points. Tous les trucs là, tu vois, enfin c'est effrayant, enfin tu vois, carte grise avec des points en dessous, construire, bam, carte jaune, ah, en dessous, étape 1, tu vois, plein de petits détails, des flèches, alors qui sont de la bonne couleur et tout, mais qui partent dans
tous les sens. C'est vrai que la règle
moi,
paraît...
Je peux pas donner ça à quelqu'un en fait, c'est enfin la plupart des gens, et moi le premier, même moi qui connais le jeu, j'avais eu ça, j'en parlais en off hier quand on a un peu préparé l'émission, mais The Great Western Trail, qui est un jeu... Où tu pourrais te dire, bon bah c'est pas grave si la règle est mal écrite et
elle
tout.
Elle est très bien écrite, la règle de Great Western Trail.
Ça se destine à des gens qui
des
ont l'habitude, blablabla. La première version de Gigamic, j'ai revendu le jeu juste. J'ai lu la règle, j'ai dit, j'en ai marre, je veux plus rire comme ça en 2000. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, 2016, 2017. Il y avait des renvois, machin, et j'ai dit, bah laisse tomber en fait, tu me donnes pas envie de. Alors que je prends souvent l'exemple des Hystaries de l'époque, où quand je lis la règle, j'arrive à me projeter dans comment marche le tour de jeu et même dans les enjeux un peu de game design que ça peut avoir. Great Western Trail, c'était pas le cas du tout. Et ben là, il y a un petit peu le même problème, à une autre échelle, évidemment. C'est, moi j'ouvre la règle et j'ai juste envie de la balancer, de dire, non en fait, surtout pour un jeu qui est effectivement aussi simple, est-ce qu'il y aurait pas eu moyen de l'organiser autrement pour que ce soit un peu plus... Parce que là, comme disent, ouais, toutes ces flèches, tous ces cadres, tous ces petits points partout, sans parler effectivement, et là on rentre plus dans le cœur mécanique, tous les effets, le fonctionnement du militaire et... le fonctionnement des jetons science, les différents effets des jetons science, voilà, les effets des merveilles, je trouve ça va même.
Ouais. Alors ce qu'on peut dire sur la règle, c'est quand même que la page de dos, enfin la dernière page de la règle, donc qui se retrouve discrète, c'est les deux jeux entre guillemets, en fait c'est le rappel de tous les effets des merveilles et les effets des jetons progrès. Ou les symboles, si on nous les a pas expliqués une fois, c'est un peu dur d'intuiter ce que ça veut dire.
Ça dépend. T'as l'habitude de jouer à des jeux et tout, tu sais que ah bah ça me permet de faire ça. Enfin, t'as plein d'implicites qui fait que tu comprends, même si on te met pas les règles sous les yeux. L'iconographie est assez claire là-dessus. Ouais. Typiquement, si on te dit ah bah si tu prends une carte grise, bah tu prends une carte supplémentaire. Ok, c'est l'iconographie moi me permet de le savoir directement.
Entre la carte grise avec le point d'interrogation et la carte grise avec les quatre flèches qui vont dans tous les sens, c'est quand même. Et puis la carte grise avec deux flèches à droite et à gauche avec marqué 1 sur 5.
Oui, c'est
comprendre ce que ça veut dire. C'est plus, enfin, à moins d'être très fort, très perspicace.
Ouais, mais ça c'est des effets de, pour le coup, ça c'est des effets de merveille et elles sont rappelées sur la petite boîte et c'est quand même assez explicite. Alors, si je peux me permettre sur la règle, je te rejoins sur un truc, c'est que elle peut faire peur à premier abord. Enfin, tu vois, quand tu ouvres la règle, tu vois effectivement tous ces trucs. Mais je la trouve pas si mal foutue que ça. Honnêtement, parce que tu as la première page, c'est la mise en place. Donc tu dis, bah, tu mets ça, ok. Ensuite, tu as le tour de jeu, tu vois, tu as le cadre tour de jeu. Et après, tu as juste les flèches qui vont, bah, si tu prends une carte comme ça, il y a tel effet. Si tu prends une carte comme ça, il y a tel effet. Et après, il y a des. Moi, je trouve pas ça si mal le petit cheminement de se dire, bah, en fait, si je prends une carte grise, c'est pour construire généralement. Donc il y a ce que. Il explique ce que c'est les cartes grises. Et les cartes jaunes aussi, ça va me servir à construire. Et du coup, il y a des. Tu vois, des cadres dirige vers un cadre qui est la construction de l'étape de la merveille. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt... ça aurait pu être largement pire, je pense. Et c'est plutôt, une fois que tu te mets dedans et que tu regardes un peu le truc, tu dis, ok, je joue une carte bleue. Même pour le retour à la règle, souvent, en fait, le problème aussi quand tu joues un jeu au début, etc., la première partie, c'est régulier que tu retournes à la règle. Quand tu retournes à la règle, je trouve ça ultra efficace de dire, bah attends, là, t'as joué quoi, une carte verte, tac, 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 t'as le cheminement, et t'as pas besoin de chercher dans la règle, c'est à quelle page les cartes vertes, tu sais, tu fouilles. Enfin, moi, je le trouve quand même... Je la trouve pas si horrible que ça, et pas si excluante que ça, la règle. Ça peut faire peur d'un premier abord, mais... Quand tu plonges dedans, je la trouve pas si mal pensée.
Je suis d'accord pour le retour, ouais, avec les côtés, les couleurs et tout, tu vois tout de suite, ah bon, c'est écrit et tout, je vais voir là.
Ouais, t'as les couleurs et puis t'as le cheminement, tu vois, c'est en colonne.
Reste que le premier abord, c'est quand même vachement essentiel, quoi, pour le grand public, quoi.
Oui, oui, quand tu l'ouvres, tu te dis, ouais, il y a beaucoup de trucs, mais...
Ouais, et du coup, tu le mets dans ton étagère et puis tu vas le mettre dans la brocante où tu ressors plus jamais, quoi.
J'ai un petit regret sur la règle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fluff dedans. Donc, pour faire un en avant les histoires là-dessus, ça va être compliqué. Mais il y en a quand même un, je sais pas si vous l'avez capté, c'est au niveau des cartes rouges. Ils disent que quand on pose une carte rouge avec un corps...
Ils disent qu'il faut faire tudu.
Ouais, ils disent qu'il faut ponctuer cette action en imitant le son du corps. Tudut. Avec
c'est,
un petit dessin.
N'ayant voilà. Pas lu la règle, c'est un truc que j'oublie de faire en animation et qui pourrait bien marcher, je pense.
Ah, tu joues pas au vrai jeu. Scène, ouais. Eh ben voilà.
Ouais, c'est ça.
Ah, tu joues pas au jeu tel qu'il a été pensé par ses créateurs.
Ah, voilà. Bon. Tu vois, bon, ça rajoute quelque chose pour le pour, tu vois.
Ouais, c'est la mise en scène. C'est vachement important, la mise en scène.
Oui, ouais. Bah, clairement, clairement.
Bah oui, c'est un jeu d'ambiance, en fait. C'est un party game.
En fait, tu t'y ennuies voilà. Tellement qu'il faut bien mettre l'ambiance. Et je propose que sur cette punchline, on puisse passer peut-être...
On va passer à l'aspect mécanique, peut-être, justement. Donc on a déjà parlé du système où c'était le premier qui arrivait à construire en entier sa merveille qui déclenchait la fin de partie, à la fin de son tour à lui, donc les autres n'ont pas le droit de faire un autre tour. Donc finalement c'est un système de course, quelque part, qu'il y a dans ce jeu-là, même si on n'est pas sûr de gagner quand on arrive à la fin. Alors est-ce que pour vous c'est un point plutôt positif, un point plutôt négatif de terminer comme ça, brutalement, sans que tout le monde ait fait le même nombre de tours, et sans savoir vraiment si on va l'emporter ou pas, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce... Pour un jeu justement qui se dit grand public, on est toujours là-dedans.
Eh ben moi je trouve que c'est très bien. En fait, il y a plein de petits trucs malins dans ce jeu, et ça en fait partie, parce que ce système de course va forcer un petit peu les gens à faire attention à quelque chose. On va déjà commencer un peu le comparatif avec Seven Wonders, mais dans Seven Wonders, pour le grand public, en fait, même moi qui en ai une centaine de parties, quand je commençais à jouer, etc., tu fais absolument pas gaffe à tes voisins, alors que c'est un jeu de draft et que c'est tu vois, le sens même du jeu de faire gaffe à ce que font les voisins. Et sur des premières parties, sur des gens qui connaissent pas, tu vas faire ton truc et tu vas... Moi, j'ai du mal à jouer à Seven Wonders, moi, avec des gens qui connaissent pas le jeu, parce que je sais qu'ils vont me filer des cartes dont j'ai... Enfin, tu vois, ça va gâcher un peu le jeu, dans le sens où ils vont pas faire gaffe à ce qui passe, et du coup, ça va faciliter le jeu de toi ou d'un de tes voisins, parce que... Et je trouve ça malin dans Seven Wonders Architect, ce système de course, le fait de pas jouer le même nombre de tours, enfin, de pas avoir une sorte de fin annoncée, un nombre de tours fixe, en fait, ça va naturellement, et c'est là où c'est malin, ça va naturellement t'inciter à surveiller ce que font tes voisins de droite et de gauche pour savoir où ils en sont dans leur merveille et savoir si tu as le temps de développer d'autres stratégies ou non, ou si tu dois aussi faire gaffe à tes points de victoire et éventuellement avancer. En tout cas, tu sais que la partie va bientôt terminer, donc tu ne prends pas forcément le même choix. Et je trouve que c'est... Du coup, c'est une mécanique de course assez classique, hein, c'est le premier qui termine. Enfin, voilà. Mais en fait, par rapport au public visé, encore une fois, ça induit naturellement un comportement que les gens n'ont pas, pour l'avoir constaté, non pas sur un Seven Wonders classique, par exemple.
Juste pour expliquer, en fait, à chaque tour de jeu, on peut piocher dans une pioche commune avec son voisin de droite ou une pioche commune avec son voisin de gauche, ou la pioche générale. Et donc, quelque part, quand on pioche dans la pioche commune avec son voisin, on lui empêche, quelque part, de prendre cette carte-là lorsque ce sera son tour. Et c'est là où il y a de l'interaction, et je dirais même que ça peut avoir un effet indirect aussi sur le deuxième voisin de cette personne-là, parce que imaginons qu'elle avait le choix entre deux cartes grises identiques. Si on lui en prend une, on va la forcer à prendre celle-ci qui l'intéressait dans celle de son autre voisin, qui peut peut-être aussi l'impacter de manière négative pour terminer ses objectifs. Donc on peut avoir un effet en cascade qui est impossible d'avoir dans les autres, enfin dans le Seven Wonders classique.
Alors et puis je pense qu'on reviendra sur justement les pioches et tu vois la tension là-dessus, mais si on parle que du côté course, je trouve ça malin parce que voilà, ça permet de surveiller, enfin de naturellement induire un comportement de surveillance des autres joueurs qui est vachement important dans la gamme Seven Wonders finalement.
Et la frustration générée auprès de ceux qui n'ont pas réussi à terminer leur merveille, notamment toi Benofix, qui a pu le sortir en animation avec des enfants et tout, est-ce que ça perturbe pas? Est-ce que ça génère pas des...
Bah non, puisque tu peux très bien gagner sans avoir terminé ta merveille. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le côté, est-ce que je dois terminer ma merveille? Enfin, tu vois, j'ai la possibilité de terminer ma merveille, est-ce que je le termine maintenant? Tu vois, enfin, ça, en fait... Encore une fois, ça induit de manière assez naturelle des réflexions stratégiques que des gens peuvent ne pas avoir naturellement, tu vois, dans d'autres conditions de jeu, etc. Donc ça, là-dessus, je trouve encore ça assez malin, tu vois.
Ouais, moi, de manière générale, je préfère les courses au nombre de tours fixes aussi. Alors après, ça dit pas si j'aime ou pas le jeu, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai tendance à préférer pour toutes les raisons que vous avez soulevées. C'est-à-dire que c'est un système simple d'interaction, en fait. Quoi. Il faut arriver avant les autres, et rien que ça, ça met de l'interaction. Et même si c'est pas la personne qui fait la course, qui gagne la course, qui gagne le jeu. T'as quand même, et en général ça les jeux le font assez bien aujourd'hui parce que c'est quand même un système éprouvé, t'as quand même un intérêt certain à finir la course en premier.
Oui, parce que le dernier étage de la merveille rapporte beaucoup.
Voilà, donc et comme dans Scythe, tu finis avec tes étoiles, c'est pas sûr que t'aies gagné, mais en général si tu le fais, c'est que t'as quand même de fortes chances de gagner. Alors je crois que dans Seven Wonders Architect, y'a pas de notion de truc trop caché en termes de points de victoire. Parce que moi j'aime bien quand t'as l'aspect surprise où du coup... tu vois, peut-être pas à la Mario Party où t'as les étoiles données aléatoirement, mais j'aime bien quand t'as des infos cachées où du coup, la décision que tu prends de finir ou pas, un peu comme dans... tiens, hier, je jouais à Omerta, c'est un petit peu ça, ou dans Skijo aussi, je crois, où tu vois, tu déclenches une fin de partie, et ou dans Seasalt, et tu prends le risque, en ne connaissant pas toutes les infos, que alors, j'ai bien fait de finir, parce qu'en général, je suis dans une bonne position... Mais bon, on sait jamais, et j'aime bien ce côté surprise, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime bien un peu d'aléatoire et tout, notamment, alors, pour le coup, il faut que ce soit très bien dosé, parce que ça peut être méga frustrant, si justement dans Seasalt, le dernier tour, il permettait de marquer 10 points d'un coup, c'est quand même rare, c'est exceptionnel, ce serait chiant, c'est à doser, quoi.
Effectivement, dans Seven Wonders Architect, tout est visible, hein, et je crois même qu'on n'a pas le droit de cacher ni ses jetons, ni des cartes. Aux autres joueurs. Hein.
Oui, tout est visible.
Mais bon, après, pour s'amuser à compter exactement combien un adversaire, ça peut prendre quand
mais
même
le jeu le permet, disons.
Une bonne dizaine de secondes. Quoi. Mais le jeu te le permet.
Et moi, je sais que j'aime pas que les jeux me permettent de tout compter. Parce qu'en fait, si on met de l'inconnu, je vais pas me faire chier à compter ce que je peux compter parce que je sais que de toute façon, ce sera incomplet.
Pour une remarque là-dessus, c'est quand même les fameux. T'en citer quelques exemples, mais les fameux jeux où il y a une course. Et où le gagnant n'est pas forcément celui qui va au bout de la course, tu citais Scythe, c'est quand même inhérent à ce genre de jeu que les informations soient visibles parce que tu dois pouvoir voir si tu as intérêt justement. Enfin, tu vois, je vais pas finir ma merveille si je vois que je perds, en fait. Bah, si je peux faire encore quelques points avant de la finir,
si tu vois que tu perds, mais si devant. Il y a une différence entre si je vois ou si je pense, tu vois.
Ah ouais, mais pour moi, Scythe, je crois qu'il n'y a pas.
Ah non, mais Scythe,
c'est pas vraiment d'informations cachées non plus, tu vois.
Oui, mais du coup, moi, Scythe, pareil, une critique que j'ai, c'est en gros, moi, je ferais juste une course sans l'espèce de salade de points qu'il y a. Je comprends ce que ça existe pour le côté tu peux gagner sans avoir gagné la course, ça c'est intéressant, mais par contre, je sais que du coup, ça retire un peu de l'enjeu à la course ou ça peut introduire justement du calcul sur est-ce que j'ai intérêt ou pas à finir la course.
Et tu vois, c'est là, moi, où je trouve que c'est malin parce que justement, ça incite naturellement les gens à faire attention à ce que font les autres et à où en sont les autres. Et en fait, c'est important globalement dans les jeux de société moderne, tu vois, d'analyser un peu ce que font tes adversaires. Et c'est pas quelque chose qui vient très naturellement, je trouve, chez les joueuses et les joueurs. Et en fait, ce système-là induit cette réflexion stratégique-là à des joueurs qui n'ont pas forcément au départ. Et je trouve ça, encore une fois, je me répète un peu, mais je trouve ça intelligent.
Après, il y a une solution intermédiaire qui peut être de que tous les points que tu récupères sont visibles au moment où tu les récupères, mais qu'après, une fois que tu les as devant toi, ils sont cachés. C'est-à-dire que tu ne peux pas refaire le calcul.
Ça pour un jeu grand public, c'est compliqué.
Oui, non. Donc
tu introduis une autre compétence, ce qu'est la mémoire.
Oui,
quoi.
C'est ça.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais on n'est pas dans ce cas-là, dans Seven Wonders Architect, mais c'est un entre-deux entre j'ai des points qui sont vraiment cachés, par exemple un objectif secret qu'on me distribue au début de la partie que personne ne connaît, personne ne sait si je l'ai réussi ou pas, c'est impossible de le deviner. Il y a la solution Seven Wonders Architect où tout est visible, et puis il y a l'intermédiaire où à chaque fois que je gagne des points, c'est visible, mais après je les retourne. Par exemple, on pourrait bien imaginer qu'on cache ses jetons militaires derrière un paravent, ou qu'on cache ses cartes bleues dans Seven Wonders qui nous rapportent des points directement. Ça pourrait être le cas, hein, mais c'est pas le cas. Attends, Seven Wonders.
Moi, j'attends. Il y a pas d'extension encore, je crois. Je sais pas s'il y en a une en préparation.
Je sais pas.
Mais... C'est Flavien et j'interromps cette émission avec un flash spécial. Je monte l'émission alors que Essen vient de se passer et on a pu voir lors du salon sur quelques photos, etc., qu'effectivement une extension pour Seven Wonders Architect est prévue, appelée pour l'instant Seven Wonders Architect Medals. Alors est-ce que c'est quelque chose qui va m'intéresser ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, sachez qu'elle existe. Mais parce que moi, je serais preneur de trucs un peu comme ça où justement. En fait, j'aime bien les surprises dans les jeux et le tout visible, je comprends ce que tu dis, Ben, au niveau de comparer par exemple. Et d'ailleurs, le jeu, je pense, le matérialise en fait par ses merveilles, cet aspect course. Là où, par exemple, dans Welcome, qui est un jeu que j'aime bien, parce que justement, il y a ces contrats qui, en fait, sinon, la plupart des trucs and write, bah, il n'y a aucune interaction parce qu'il n'y a pas de système de contrat, alors que Welcome le fait super bien. Et c'est pas compliqué à faire des petits contrats juste pour ajouter un peu le fait de potentiellement pouvoir faire attention à ce que font les autres. Mais Seven Wonders Architect le matérialise mieux que Welcome, où les contrats, tu vois, c'est des cartes qui sont de côté et tu vas peut-être pas penser à les regarder tout le temps.
Ouais, et puis c'est très compliqué dans Welcome de regarder ce que les autres font, en fait, vu que c'est une fiche. Ouais.
C'est le seul élément de course de Welcome. Hein. Mais ouais, là, je suis d'accord que ça le matérialise très bien en plus, donc en termes de pousser les personnes à regarder ce que font les autres, tu vois vite, ah mince, il a bientôt fini sa merveille. Tu peux aussi totalement choisir de, bon bah, moi la merveille, je vais en faire X étages parce que j'aime bien les bonus, mais je sais que je vais pas faire une partie où je vais viser de la finir, je vais plutôt me concentrer sur la science ou que sais-je. Mais comme dit, après ça c'est vraiment une sensibilité personnelle, je sais que moi, ouais, tu vois pareil dans les jeux de plis, quand c'est information complète, quand tout est distribué en fait, donc où t'as une notion de mémoire et où tu sais que du coup tu peux faire ce qu'on appelle le card counting, où tu comptes les cartes. J'aime beaucoup mieux les jeux de pli où t'as quelques cartes écartées en début de partie et où ça introduit un peu de trucs. Et d'un certain côté, je trouve encore plus. Alors, je sais pas si c'est plus grand public, parce que typiquement il y a plein de jeux abstraits qui touchent un grand public, alors que t'as toutes les infos. Mais je trouve que les jeux avec un peu de hasard, de chaos, le hasard introduisant potentiellement du chaos, de l'inconnu, ça se prête bien au grand public, quoi.
Ouais, mais Seven Wonders Architect en apporte à un autre endroit.
C'est pas un jeu abstrait, ouais, c'est vrai. Ouais.
Tu vois, le hasard et le chaos, il est apporté par la pioche
c'est pas
centrale,
dans le système de
etc.
Course,
tu vois.
Alors, ce qu'on peut dire de toute façon, c'est qu'il y a un certain paquet de cartes quand même. Pour en venir au bout, dans Seven Wonders Architect, il faut déjà y aller. Et pour avoir une idée des probabilités que telle ou telle carte sorte au prochain tour, c'est quand même impossible, quoi. Enfin, tout est possible. À chaque fois qu'on pioche une carte, tout est possible. Enfin, ça sert à rien de faire des probabilités. Il y a trop de cartes.
Tu peux intuiter, tu peux vaguement fonctionner au feeling en disant, ouais, il y en a déjà beaucoup qui sont sortis et tout. Ouais. Mais c'est vraiment, et ça, c'est très bien pour moi, pour le coup, parce que moi, je suis vraiment nul là-dessus. Donc, en fait, moi, j'aime bien fonctionner à l'intuition. Ouais.
Ah ouais, parce qu'il y a plus de 200 cartes quand même, hein, donc là, la loi des probabilités.
Et effectivement, encore une fois, tout est visible, donc c'est intéressant, tu vois, sur les jetons science notamment. Si tu attends un jeton science en particulier, tu peux voir autour de la table combien sont sortis, puisque les gens les ont devant eux et que c'est visible. Et donc, tu peux te dire, bon, ben voilà, comme tu le dis, au feeling, la probabilité est très faible ou la probabilité est pas si faible que ça de tomber sur ce genre de cartes, quoi. Mais effectivement, c'est pas un truc où tu comptes les cartes.
Parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 5 types de cartes, hein, et 25 types de, oui, 5 types de cartes, hein, 5 couleurs. Il y en a 2 qui servent à la construction de la merveille seulement, et les 3 autres vont faire du scoring différemment de la construction de la merveille. Donc c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'on peut tout à fait avoir plus de points sans être arrivé au bout de sa merveille, parce que les cartes bleues, rouges et vertes ne servent pas à construire sa merveille.
Et du coup, effectivement, on retrouve les marqueurs de Seven Wonders avec les différentes stratégies civiles, scientifiques et militaire, quoi.
Exactement. Et au sein des cartes, alors les cartes vertes, bon, elles sont toutes équivalentes, on va dire, mais au sein des cartes rouges et au sein des cartes bleues, il y a une petite nuance en fonction des cartes. Ça, on peut peut-être en parler, hein. Donc sur les cartes bleues.
Ouais, bah c'est des systèmes. En tout cas, on peut en parler comme des systèmes qui.
Des sous-systèmes.
Et mine de rien. Alors c'est intéressant parce que du coup, effectivement, la règle de base qu'on a dit, c'est piocher à droite, piocher à gauche, piocher au centre, et garder, c'est de la collecte de ressources, ou de la collecte de différentes choses. Donc c'est vraiment une règle très simple, et effectivement grand public. Par contre, les implications que ça a, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, le fait de faire attention, d'essayer de regarder ce qui est plus intéressant, de prendre de vitesse l'autre, de penser à une autre stratégie, en fait, c'est des réflexions qu'on trouve dans des jeux beaucoup plus complexes. Et je sais pas, alors là... est-ce que, tu vois, ça c'est plus toi Ben qui va me le dire, parce que moi j'ai pas assez joué avec des gens qui n'ont pas l'habitude, mais est-ce que les gens le font naturellement, est-ce que c'est pas, alors pour le coup j'ai pas envie de paraître ouais, snob ou quoi avec les gens qui connaissent pas, mais est-ce que c'est accessible tout ça rapidement? Est-ce que les gens le font, ouais, assez naturellement, tu vois, le côté science, les cartes rouges qui fonctionnent encore différemment
Ben, je trouve effectivement qu'ils le font assez naturellement et beaucoup plus naturellement que sur des jeux qui seraient plus compliqués, tu vois. Beaucoup plus naturellement, en tout cas, que sur Seven Wonders classique. Parce que c'est un draft, enfin, c'est un système de draft en quelque sorte, mais beaucoup plus limité. Alors, comme dans Seven Wonders, tu n'as que deux voisins à surveiller, entre guillemets. Et là où c'est plus efficace et où les gens le font plus naturellement, c'est que, en gros, tu n'as qu'une carte à surveiller de chaque côté. Enfin, tu vois, tu sais si tu dois la prendre, la laisser. Tu sais si tu dois prendre le risque de dévoiler la carte. C'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que j'ai l'impression que les gens y arrivent beaucoup plus naturellement parce qu'il n'y a pas 36 trucs à analyser. C'est, tu vois, je regarde ce qu'il a. Ah, il a ça en science. Du coup, y a la carte science qui correspond sur notre paquet commun, c'est à mon tour de jouer, bah, si je veux lui empêcher de prendre un jeton science, je vais la prendre. Ou à contrario, genre il y a une carte qui ne l'intéresse pas, est-ce que je prends le risque, moi elle m'intéresse, est-ce que je prends le risque de piocher dans notre pioche commune, même si elle m'intéresse, sachant que je vais dévoiler une carte pour lui qui peut être intéressante. Donc c'est, en fait, c'est, encore une fois, je trouve ça assez naturel dans ce jeu-là.
Ouais. Ouais, et puis important quand même, c'est que, et ça c'est plutôt à mettre au crédit du jeu, que faut pas prendre le grand public pour des cons, c'est-à-dire que tu vas pas... Moi j'adore les jeux ultra simples, mais c'est pas parce que tu vas viser le grand public qu'il faut se dire « Oui, ben non, ben, on va mettre que vraiment des trucs tout cons, ou il faut avoir des trucs pareils et tout. » C'est cool de te dire « On fait un jeu grand public, mais derrière on va quand même mettre des systèmes, des sous-systèmes, alors qu'ils soient intéressants ou pas, c'est une autre question. » Mais c'est entre guillemets valorisant, c'est valoriser ce public-là, c'est juste pas dire bah t'as que droit à du Skyjo ou du Uno ou quoi, des mécaniques plus complexes et notamment des dynamiques de jeu, ce que tu disais, hein, le faire attention aux autres, ça peut exister au sein de ce marché-là. Moi je sais pas si c'est le cas dans Seven Wonders Architect, mais si c'est le cas c'est cool, et c'est encore une fois plutôt respectueux de ce public, plutôt que de se dire ouais t'es pas capable de jouer à ça, on va te faire un skijo, quoi.
Ouais, mais ça, en plus, ça, je trouve que ça fait, justement, comme c'est assez naturel dans le jeu, ça fait une super introduction et une super formation, entre guillemets, au jeu moderne. Parce que ça peut t'éveiller assez facilement et assez intuitivement à ce genre de mécanique. Et même, en fait, chez des enfants, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Alors souvent, les enfants, d'ailleurs, sont beaucoup plus...
Un peu comme Kingdom Builder permet d'éveiller à la mécanique d'objectif, par exemple, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Des trucs comme ça, quoi.
Les enfants sont souvent beaucoup plus, justement, attentifs que les adultes. Enfin, mine de rien... un adulte ou un senior qui n'a jamais joué et qui commence un truc comme ça va avoir moins facilement ces réflexes-là qu'un enfant de 8-10 ans. Tu vois, mais...
Serais-tu en train de nous dire, BenoFX, que ça pourrait être un gateway game, ce Seven Wonders Architect?
Bah ouais, carrément.
Gateway game, c'est le jeu portail, moi je les appelle comme ça, c'est ceux qui permettent...
Ah ouais, le fameux de 7 à 77 ans. Quoi.
Voilà, ça permet de passer des petits chevaux à Projet Gaïa en douceur. Quoi. Voilà.
Non, mais c'est un gateway aussi entre générations, je pense. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que sur les jeux accessibles grand public, c'est que tout le monde peut y jouer et tout le monde peut se faire plaisir, tu vois. Il n'y a pas de barrière que ce soit, encore une fois, accessible dans tous les sens du terme.
Ouais, je ne sais pas si vous êtes adepte un peu des variantes auto-permises, c'est-à-dire que la règle ne le permet pas, mais on se le permet quand même.
Oui,
on peut très bien, sur les cartes bleues, considérer ne pas jouer avec le pion chat, Donc, ça serait bien qu'on le jeu ton chat, donc ça serait bien qu'on discute un petit peu. On peut très bien dire qu'on ne joue pas avec et que toutes les cartes bleues valent 3 points, par exemple, y compris celles qui ont le jeu ton chat. Ça simplifie la partie et pour une entrée en matière, ça peut être pas mal. Tout comme les cartes rouges, on peut très bien considérer que elles valent toutes 1 point de militaire. On les garde du début à la fin de la partie, on s'en fiche des petits symboles de corps là, et puis on joue comme ça et ça se joue très bien quoi. Ça permet de simplifier aussi la partie.
Ouais, pourquoi pas. Ouais. Voilà. C'est ouvrir plus tard.
Donc c'est des adaptations qui sont tout à fait possibles quoi.
Après c'est pas des règles, enfin les deux règles que tu évoques, bah, on peut en parler, hein, mais c'est pas des règles non plus très compliquées et je trouve qu'encore une fois c'est des subtilités qui rendent le jeu intéressant. Donc le pion chat pour les auditrices et les auditeurs, le pion chat.
Que tu peux avoir en version avoir le vrai chat chez toi, mais
Tu vas avoir le vrai chat. Mais le vrai chat, généralement, il te fout le bordel sur le plateau. Ou
ouais. il vient, non, mais sinon, t'as une version de luxe, je sais plus comment on la récupère, mais où t'as une qui va dans le côté surédition du truc, ou bien t'as juste un jeton chat.
Oui,
quoi.
Oui alors après, la matérialisation du jeton, effectivement, c'est un autre débat, mais du coup, le jeton chat, c'est un petit bonus que tu peux récupérer si tu prends une carte bleue sur laquelle il y a le petit symbole de chat. Et en fait, c'est assez puissant. Puisque ça va te permettre, ce qu'on n'a pas bien expliqué, c'est qu'effectivement, tu as toujours le choix entre trois pioches, la pioche de droite, la pioche de gauche avec tes voisins, et une pioche centrale
qui sont visibles.
Voilà, qui sont face visible. Donc tu sais ce que tu vas prendre, et voilà, tu sais ce que tu vas laisser. Enfin, quand tu prends ta carte, tu vois ce que tu vas laisser à ton voisin. Et il y a une pioche centrale, donc c'est toujours le choix de est-ce que je prends un truc que je maîtrise, mais je ne maîtrise pas ce que je vais laisser à mon voisin, ou. Est-ce que je dis, j'ai pas envie de statu quo avec mes voisins, j'ai pas envie de lui libérer une carte qui peut l'intéresser, donc je prends dans la pioche centrale, mais c'est là pour le coup face cachée, et je ne sais pas ce que je prends au hasard. Je prends une carte au hasard, je sais pas ce que je vais récupérer.
Tu ne sais pas ce que tu prends, mais personne ne sait ce que tu prends, c'est ça qui est intéressant.
C'est ça, personne ne sait ce que tu vas prendre.
Sauf que tu le révèles, non ?
Personne ne sait ce qu'il y a après, etc. Oui, après tu révèles, donc les gens savent ce que t'as pris, mais. Et donc le pion chat, le fameux petit pion chat. C'est un bonus que tu peux récupérer sur certaines cartes. Et il y en a pas mal quand même, donc le jeton bouge quand même et passe d'un joueur à l'autre assez rapidement.
Encore de l'interaction.
Ouais, mais le pion chat te permet de regarder la première carte de la pioche face cachée avant de choisir parmi les trois cartes. Donc tu as une information.
Là, petit point mathématique.
Oui.
De combien de pourcentage tu augmentes ton nombre d'informations visibles avec ça?
50%.
Je dirais que c'est 50%. Cartes. Oui. Je dirais que c'est
50%.
Pour nos amis les matheux en maths sup, maths spé, qui n'ont pas trouvé la réponse.
Donc tout sauf négligeable. Et c'est pour ça qu'il y a ce système aussi qui fait que le pion tourne quand même pas mal pendant la partie. Mais ça te donne une information supplémentaire qui est importante, surtout une information sur laquelle il n'y a que toi qui l'as, tu vois. Alors que sur les autres, tu as de l'information, mais tout le monde a l'information.
Et attention. Il rapporte aussi, je crois, des points en fin de partie.
Oui, celui qui l'a au dernier tour gagne 2 points de plus.
Voilà. Incroyable.
Alors ça, on peut effectivement, ça, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire.
Non, on s'en fout.
Mais effectivement, la personne qui l'a à la fin gagne 2 points de victoire.
C'est vraiment des
points. Ça, honnêtement, c'était dispensable. Je suis d'accord. La mécanique, je trouve, du pion qui tourne et qui t'offre un petit bonus au moment du choix, c'est intéressant. Après, que ça apporte des points ou pas. Bon. Je pense que c'est voilà, ça c'est effectivement.
Et parce que du coup, si vous voulez, on peut parler de cette mécanique de pioche qui est moi le problème, c'est que là, je pense que j'ai quand même dit pas mal de choses que j'ai accepté dans le jeu, mais le truc c'est qu'en fait chaque système m'emmerde quoi. C'est un peu le problème. C'est un jeu qui se joue effectivement rapidement. Moi j'ai une question, c'est sur le rythme du jeu en fait. Moi pour moi c'est vachement important le rythme et c'est pas dépendant du tout de la durée de partie. C'est-à-dire que un Arc Nova je m'y emmerde, un Route pas du tout, un Lucky Numbers je m'y éclate, un Seven Wonders Architect je m'y fais chier. Parce que en 20 minutes, et il y a plein de raisons qui vont pouvoir expliquer mon ressenti, j'ai jamais l'impression d'avoir prise sur le jeu, et du coup, en fait, je m'ennuie énormément, et je trouve pas normal que, tu vois, là, c'était une année assez faible pour Last Door, je trouve, c'était Happy City, bon, que je préfère à Seven Wonders Architect, mais qui est pas non plus incroyable, et Carte Aventura, que j'aime pas non plus pour d'autres raisons. Enfin, y a, tu vois, alors qu'un Super Mega Lucky Box, c'est rythmé, ça bouge et tout, t'es actif.
Ça faisait longtemps que tu nous en avais pas parlé.
Ah oui, c'est vrai. Ça fait presque un an, je pense. Et j'avoue que, ça m'ennuie un peu, en fait. Et, alors, c'est un petit peu moins le cas en physique, forcément, parce que t'as de l'interaction verbale, tu vas plus regarder les autres et tout, alors que c'est vrai que sur BGA, c'est d'autant plus le cas.
Oui, et puis t'as le rapport au matériel aussi,
ouais, évidemment.
Au toucher qui est... Voilà.
Mais ça n'empêche pas que sur 20 minutes de partie, je suis là et je trouve le temps très long entre chaque tour. Alors d'autant plus si tu joues à... ça joue jusqu'à 7, évidemment.
Ouais, jusqu'à 7, ouais.
Et ouais, Ouais, y a rien en fait, si tu veux, qui, à part le tut-tut là du corps, hein, qui pourrait ajouter un peu d'animation, mais
qui marche pas sur BGA non plus.
Ah, ouais. Ah putain, ouais. Il faut qu'ils mettent ça.
Alors
sur
effectivement, à la différence de Seven Wonders original, il n'y a aucune action qui est en simultané avec les autres joueurs. Et c'était un peu ça aussi qui avait fait le succès de Seven Wonders, c'est que on se fait jamais chier même pendant le tour des autres, quoi. Voilà. Alors que là, effectivement,
c'était le principe. Ouais, on en reparlera après, mais c'est vrai que moi, du coup, je ressens beaucoup d'ennui et c'est ça qui m'embête en fait dans Seven Wonders Architect. C'est, alors, je trouve les mécaniques, c'est un bête jeu de collecte de ressources pour construire des trucs. Les systèmes, on les connaît, qui viennent de Seven Wonders ou d'ailleurs, le côté jetons et tout. Juste, je trouve chaque système indépendamment un peu ennuyeux. Et du coup, ouais, il y a vraiment, je trouve, un problème de rythme sur un jeu aussi court. Tu vois, Munchkin a un autre problème de rythme, c'est que c'est un peu le même, en fait. C'est trop long pour ce que le jeu a à m'offrir en termes d'intensité, je pense. Et Ark Nova, pareil, en fait. Il y a trop peu de tours où je m'éclate. Ouais, il y a trop peu de tours, par exemple, dans Ark Nova où je m'éclate. Il y a la plupart des tours où je suis... Et pourtant, dans Ark Nova, j'aime bien le système d'action et tout. Mais je suis là, bon, enfin, j'ai un tour où je peux m'éclater un peu. Et tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est pas une question de durée de partie. C'est vraiment plus de ressenti de rythme. Bah, ce qui joue beaucoup là-dessus, ce qui fait que je m'ennuie, c'est notamment ce système de pioche, où en fait, j'ai l'impression, moi, dans le jeu, que rien n'a vraiment d'importance, tu vois. Et que, typiquement, un piocher... C'est comme dit, j'en ai fait quand même 30-40 parties sur BGA, et en fait, plus ça avançait, parce que moi j'aime bien vérifier un peu mon avis et voir comment ça peut évoluer, et donc, tu vois, tous les quelques mois, je me dis, bon allez, vas-y, on y retourne, on va voir, peut-être que mon avis a changé. Petit à petit, au fur et à mesure du temps qui passait, je me suis retrouvé de plus en plus dans des parties où juste tout le monde piochait à la carte au milieu. Parce qu'en fait, sauf exception, bah t'as plus intérêt, c'est rarement moins bien que tes cartes à gauche et droite, et en plus, ça t'empêche de révéler un truc qui pourrait être mieux pour tes voisins à gauche et droite. Typiquement, t'as pas envie de révéler une pièce d'or, t'as pas envie de révéler le bon jeton science, alors à moins que les cartes à gauche et droite t'intéressent vraiment. Mais tu vois, c'est un peu le même problème que dans Catan avec la négociation, en fait.
Oui, c'est vrai que ce qu'on peut rappeler, c'est que c'est exactement les mêmes types de cartes qu'il y a dans la pioche face cachée et dans les pioches de ses voisins. Il n'y a pas des cartes qu'il n'y aurait que dans la pioche face cachée, par exemple.
Et c'est un peu le même problème que dans Catan, où tu n'as aucun intérêt à échanger si t'es perdant. Et là, bah, le statu quo, t'as intérêt à le garder, et du coup, on se retrouve dans des parties où tout le monde pioche au milieu et où on se retrouve, je sais que c'est un truc qui a souvent été présenté comme on a l'impression de jouer à la bataille, bah là en fait c'est un peu à qui piochera les meilleures cartes au milieu, et c'était de plus en plus le cas le temps passant, donc je me dis que ça doit être la meilleure stratégie, tu vois, sauf machin ponctuel, mais et également, bon, sauf, ouais, quand même, ça tu pourras en parler peut-être des jetons progrès,
jetons
là, qui permettent d'orienter un petit peu, et donc de donner de l'intérêt au fait de prendre telle ou telle carte, mais dans le cœur de jeu, bah t'es là et puis ah bon c'est mon tour, ah bah je prends au milieu, ah bah c'est pas bien, mais en même temps c'est pas si pire que ce qu'il y avait, et puis au moins j'ai pas révélé un truc super pour les autres, et du coup le jeton chat est très important, mais en même temps pas tant que ça, parce que du coup de toute façon j'aurais pioché au milieu, quoi, sauf pour un truc, et ça c'est cool, c'est tu regardes la carte et si tu la prends pas, en fait tu la remets, et il peut y avoir un côté un peu bluff, tu vois, là-dessus,
bluff,
ouais. Ou ah je l'ai remise, est-ce que tu l'avais ou pas, ça me fait marrer, mais et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que moi, le système, par exemple dans Jaipur ou dans plein de jeux, en fait, souvent à deux, j'adore le système d'ouverture forcée à l'autre. Et c'est le cas dans Seven Wonders Architect, c'est-à-dire que quand tu prends une carte à gauche ou à droite, tu fais une ouverture à l'autre, puisque tu sais pas ce que tu vas lui révéler. Et moi, j'adore ça dans les jeux. Dans Jaipur, j'adore quand tu prends des trucs et que tu sais pas ce que tu vas révéler.
Quand tu prends les chameaux.
Ouais, mais le jeu te force à le faire. Et te force
à faire des...
Pareil dans Les Cités Perdues, et j'adore ça. C'est vraiment un truc que j'adore dans les jeux. Et là, en fait, cette pioche face cachée, bah, contre-circuite ça, alors que c'est un élément très fort d'interaction. Et c'est pour ça, hein, encore une fois, je crois que j'ai lu ici et là que ça manquait d'interaction, je trouve vraiment pas... Et après, peu importe que les jeux soient interactifs ou pas, ça dit pas si c'est un bon ou un mauvais jeu pour moi. Mais je trouve vraiment, moi qui aime l'interaction en général, c'est pas ça qui m'a gêné dans Seven Wonders Architect, c'est plus le fait qu'elle soit sans vraies conséquences et qu'on te la pousse pas à le faire, justement avec cette pioche face cachée qui est finalement souvent aussi rentable, voire plus, puisque tu fais pas ce côté de ouverture à l'autre.
Ouais, faire un cadeau à l'autre, quoi. T'as peur de faire un cadeau à l'autre, en fait, quand tu
c'est
prends
ça,
une carte à ton voisin.
Et dans Jaipur, à un moment, t'es obligé de le faire et tu te dis « vas-y, go ». C'est quelque chose que j'aime bien et je trouve que c'est dommage que ce soit court-circuiter entre guillemets là-dedans.
Effectivement, on peut ne faire que toute la partie en piochant la pioche face cachée. Ouais.
Et le problème, c'est que moi, alors encore une fois, il y a le filtre BGA important. C'est d'ailleurs, c'est pas les mêmes personnes qui jouent, c'est pas autour de la même table. Et ben, plus le temps passait et plus il y avait plein de parties où tout le monde piochait au milieu. Ou bien si quelqu'un faisait que ça et que les autres essayaient de jouer en connaissance de cause, et ben c'était pas récompensé, tu vois. En fait, t'avais l'impression que bah. Ouais, bah en fait, t'as gagné en piochant que au pif toute la partie. Et nous qui avons, entre guillemets, essayé de choisir parmi des cartes visibles, bah en fait, ça ne nous a pas apporté grand-chose, puisque on a perdu. Et c'est trop fréquent, je trouve.
Ouais, après, ça peut être aussi une manière pour soi de se dire « Ah bah, j'ai perdu, mais c'est la faute à la pioche, quoi. C'est pas que j'ai mal joué, parce que j'ai toujours pioché dans la pioche face cachée, c'est la faute à la pioche. » Donc c'est un petit peu facile, on n'assume pas, on prend pas de risque, et on pioche face cachée. Ça peut être
ouais,
ça aussi.
Ça me dérange. Ça, j'ai pas ce sentiment-là, ouais, moi, mais...
Alors, si je peux... Du coup, sur... Enfin, du coup, il y a deux choses différentes. Sur le rythme, ouais...
Mais en fait, les problèmes sont liés. C'est-à-dire que c'est le manque d'implication que j'ai dans la partie qui fait que j'ai des problèmes de rythme, quoi. Si
effectivement. Mais sur le rythme, alors, je te rejoindrai, genre, sur des parties à 7 sur BGA. Effectivement, tu fais pas grand-chose d'autre. T'attends un peu que ton tour revienne,
etc. Heureusement, il y a le deuxième écran.
mais bon, après, sur une partie physique, effectivement, c'est un peu moins le cas. Surtout, plus t'es nombreux, plus tu commandes, plus tu discutes d'autres trucs. Enfin, plus tu... Enfin, donc, moi, le rythme... Alors, je comprends pourquoi ton... Enfin, je viens à la deuxième raison de ce manque de rythme. Sur le choix finalement, mais après c'est une question, encore une fois c'est une question de choix du joueur. Est-ce que tu, enfin si tu joues avec des gens et si je sais pas sur BGA ils considèrent que c'est optimisé de dire bah j'ai envie de jouer à un jeu en disant je vais piocher au hasard et advienne que pourra, c'est sûr que tu vas, l'intérêt ludique il est limité. Pour moi, justement, l'avantage...
Mais il
de
est
ça,
récompensé, c'est ça le problème, en fait.
Bah, il est récompensé pour une personne. C'est sûr que si tu dis on lance un dé, celui qui a la plus grosse valeur gagne, oui, ça récompense une personne.
Le problème, c'est que je trouve que le système de Seven Wonders Architect récompense cette façon de jouer au pif complet.
Bah, c'est là où je suis pas d'accord. D'accord, c'est ouais. Que moi, j'ai vu beaucoup de gens... alors, je sais pas, hein, mais... J'ai eu beaucoup de parties où... Enfin, en fait, déjà, j'ai rarement eu des parties dans cette configuration-là où tout le monde pioche au milieu et puis basta, tu vois. Mais je trouve que justement... Alors, je vous rejoins un petit peu sur... Il y a une remarque de Peter. Ça aurait été peut-être intéressant, effectivement, qu'il n'y ait pas tout à fait les mêmes cartes ou que les cartes soient peut-être tu vois, un petit peu moins intéressantes au milieu. Ça aurait peut-être créé une dynamique un peu plus... là-dessus, je vous rejoins, ça aurait peut-être forcé un peu plus à jouer sur les pioches droite-gauche.
Genre les cartes jaunes, on aurait pu imaginer qu'elles soient uniquement dans les pioches individuelles.
Ouais, ou ce genre
de... Mais du coup, ouais, t'as pas envie de les découvrir non plus, quoi. Donc en fait, si elles sont que à droite ou à gauche, tu vas pas avoir envie de les montrer aux autres, quoi.
Non, mais en tout cas, tu vois, un truc où voilà, les cartes sont un peu moins fortes, où tu vois, il y a que certains types de cartes. Fin... Mais en tout cas, moi, je trouve que ça fait partie de... Moi, c'est plutôt un truc que je trouve bien de se dire. Pour moi, ça fait partie du dilemme, en fait, du joueur et du dilemme un peu du draft. Parce que des cartes qui t'intéressent, il y en a forcément qui arrivent à droite ou à gauche. Parce que même si pendant un certain nombre de tours, c'est le statu quo, à un moment, c'est parce qu'il y avait une carte grise qui t'intéressait pas, mais tu t'es retrouvé par la carte du milieu ou par la pioche du milieu ou pour une raison ou une autre, tu t'es retrouvé avec des matériaux qui fait que t'as intérêt à la prendre parce que ça va te construire un bout de ta merveille, tu vois, plutôt que prendre au hasard et de jamais construire ta merveille. Je suis d'accord, la pioche centrale, on y va assez souvent. Mais c'est ce qui fait, en fait, la pioche centrale, c'est ce qui fait aussi qu'à un moment, tu vas avoir envie de piocher à droite ou à gauche parce que tu auras récupéré des cartes qui vont te...
Ah, peut-être que tu as récupéré le jeton science qui permet de valoriser ce type de carte-là. Ouais.
Donc pour moi, je suis d'accord qu'on va peut-être assez souvent, mais c'est pour ça qu'elle est importante, la pioche du milieu. On va y aller assez souvent à la pioche du milieu, mais c'est aussi cette pioche du milieu qui fait qu'à un moment, tu as le dilemme de dire « Ah, voilà, j'ai récupéré telle carte à la pioche du milieu. Est-ce que... Enfin, j'ai intérêt à prendre... ou à ne pas laisser justement une carte qui est... Tu vois, c'est soit à prendre, soit à ne pas laisser la carte qui est à ma droite ou à ma gauche, à mon voisin. Pour moi, ce truc-là, il se dégrippe assez naturellement par rapport au jeu. Après, effectivement, qu'il n'y ait pas... Le choix est forcément limité. Hein. C'est pas, encore une fois, c'est simplifié par rapport à Seven Wonders, donc c'est pas un draft complet, etc. Donc, ton dilemme, c'est à chaque fois un peu le même. C'est où est-ce que je prends, est-ce que je laisse, est-ce que je prends, tu vois. Et du coup, je te rejoins peut-être un peu là-dessus, où ce choix, il est limité et un peu répétitif, sûrement. Pas si inintéressant que ça.
Alors, on peut dire effectivement que toutes les cartes ont un effet forcément positif. Donc, même si on la prend, qu'on la pioche dans la pioche face cachée, elle ne nous intéresse pas tout de suite, peut-être qu'elle peut anticiper une prochaine action ou une prochaine construction de merveille où on va l'utiliser.
Alors, oui et non, je dirais que c'est vrai en début de partie. En fin de partie, ça allait beaucoup moins parce qu'en fin de partie, tu peux te retrouver avec des jetons de science, des cartes militaires ou des cartes de matériaux, des cartes grises qui vont te servir à rien. Donc, tu peux au hasard comme ça passer trois tours à avoir, tu vois, à rien prendre.
Notamment... Parce qu'à la fin, sur les merveilles, tu as besoin souvent de pas mal de mêmes ressources ou oui, de ressources différentes. Donc, ressources différentes. Tu vas aller vraiment chercher ça. Je trouve que le jeu offre pas assez les... Alors, il offre quelques moteurs, mais en fait, c'est un peu le problème qu'il y avait aussi... Alors, Dice Forge, c'est encore différent, mais parce que je trouvais qu'il y avait un peu un truc qui s'interrompt trop tôt dans Dice Forge, où tu commences à faire ton moteur et pouf, il s'arrête. Il y a un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que c'est un jeu très court, ce que je peux comprendre, il y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, tout ce que... Tu vois,
t'as pas le temps de développer à fond une stratégie.
L'effet moteur, il est avec les jetons verts, là, justement.
Ouais.
Moi, j'ai déjà fait des parties avec 4 jetons verts sans problème, donc ça te fait quand même un bon moteur.
T'as pas le temps de l'exploiter suffisamment, je trouve, justement, tu vois, pour utiliser à fond tes pioches de gauche et droite, en te disant, ah bah maintenant, j'ai vraiment intérêt à aller à gauche et à droite, quoi.
Ouais, d'accord. Et est-ce que vous trouvez que c'est équilibré, d'ailleurs, tous les jokers un peu qu'on peut avoir sur ces jetons verts? Parce que les jetons verts, il y en a 3 qui sont visibles, il me semble. Et puis on peut toujours piocher dans la pioche face cachée, mais des fois quand en début de partie, notamment il y a un type de jeton vert qui marche en couple, c'est-à-dire que si on a les deux, on a vraiment énormément de points. Si ce jeton vert est disponible en tout début de partie, généralement c'est la ruée sur ce jeton-là, parce que
c'est auquel que tu penses, c'est celui qui vaut 4 ou 12 points.
Ouais, c'est 4 ou 12, je crois. Ouais, culture, ouais, c'est ça, 4 ou 12.
Mais t'es pas sûr de trouver le deuxième.
Mais si t'as pas le premier, t'es sûr que... Voilà. Et en plus, de prendre le premier, ça permet d'éviter à quelqu'un d'autre de faire la course au deuxième.
Et au pire, c'est 4 points.
Et au pire, si tu l'as tout seul, c'est 4 points, ce qui est déjà pas mal quand même dans Seven Wonders.
Mais pour le coup, du coup, ça pousse aussi à aller chercher la science au hasard, tu sais, parce que t'es là et tu te dis, je sais qu'il est là-dedans, il est pas encore sorti, allez, je prends au pif. Alors ça marche pas toujours, mais il y a ce côté qui te pousse à aller prendre justement le truc non visible et qui donne de l'importance au fait de voir ce qui est sorti. Du côté des jetons science, tu te dis, ah, il est pas encore sorti, donc maintenant j'ai un peu plus de chances de le piocher face cachée.
Ouais, des cartes science, ouais. Alors en sachant qu'on peut faire le combo avec 2 cartes science identiques ou 3 différentes, il me semble. Hein. Voilà, il y a 2 manières quand même d'avancer sur les collectes de jetons science.
Oui, c'est le seul petit élément de création de moteur, avec en plus la symétrie des merveilles ouais, qui donnent des petits pouvoirs, qui ça, bon, je trouve que c'est plutôt bien.
Est-ce que vous les trouvez équivalentes, les merveilles d'ailleurs?
Moi j'ai joué un peu avec tout, je t'avoue elles sont toutes bien. Après le bouclier, bah en fait ça va dépendre de ce que tu arrives à piocher. Gizeh, c'est la pyramide, donc
il y a pas d'effet,
a pas d'effet, elle rapporte plus de points, ouais.
Mais ça reprend quand même globalement ils ont repris les merveilles, les 7 merveilles, et ils ont repris un peu les orientations mécaniques des merveilles déjà de Seven Wonders de base. En fait, c'était déjà le cas dans le premier Seven Wonders, la pyramide de Gizeh, c'était des points par rapport aux autres qui rapportaient tu vois, Rhodes, ça a toujours aussi dans les Seven Wonders apporté plutôt du militaire, voilà. Donc ils ont repris quand même les... Encore une fois, hein, je pense qu'on peut l'aborder peut-être maintenant parce que ça se mélange quand même un petit peu.
C'est un jeu où on retrouve
assez, de manière assez claire et assez efficace, tous les marqueurs de la gamme Seven Wonders.
Maintenant qu'on a bien abordé les parties mécaniques et la qualité de l'édition du jeu, on peut évidemment, on doit faire le lien entre ce jeu et les autres jeux de la gamme Seven Wonders. Est-ce un vrai Seven Wonders, ce Seven Wonders Architects? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui.
Ouais,
non, bah oui, c'est un jeu où on retrouve bien. Je trouve, et encore une fois, de manière plus accessible et simplifiée, mais on retrouve bien tous les marqueurs d'un Seven Wonders, à savoir les merveilles avec des effets, les différentes catégories de cartes, les ressources, les cartes sciences, les cartes commerce, les cartes militaires, les cartes civiles. On retrouve...
Il n'y a pas les chaînages, que moi j'aime bien, parce que du coup, chaînage, en fait, là je trouve que les cartes bleues ne sont pas très intéressantes. Il y a l'histoire du chat, mais sinon, bon...
C'est vrai, il manque peut-être les chaînages qu'on retrouve dans les autres.
S'il y a un jeton science qui permet de valoriser l'icône chat sur les cartes, mais c'est tout. Et peut-être que ça aurait mérité un peu, je sais pas, autre
chose. Après, il y a le thème aussi, c'est une évidence, mais le thème, c'est le même. Ouais.
Et le thème, je trouve, personnellement, qu'au-delà des thématisations des merveilles, d'un point de vue de la mise en scène et du matériel, et ben ça va plus loin que les autres, puisque tu construis vraiment ta petite merveille et tout. Je trouve que tu as un effort là-dessus.
Oui.
Immersion entre guillemets, hein, parce que bon, ça reste de la collecte de ressources à la con, et puis voilà. Ouais. Mais je trouve que il y a quand même cette.
C'est vrai que la construction de merveille dans les précédents, c'était, surtout dans le premier, c'était je fous une carte en dessous, c'était pas matérialisé du tout, alors que là, effectivement.
La thématisation arrivait dans les pouvoirs des merveilles ou dans leur orientation, mais là, effectivement, t'as quand même une matérialisation.
Et là, encore une fois, hein, ouais, c'est rigolo d'un point de vue grand public, etc. C'est des petites tuiles qui sont retournées, donc on a une face un petit peu charpente, échafaudage, etc. Et puis après, on retourne la merveille et on la construit au fur et à mesure. Et ça, c'est un effet qui est assez cool, je trouve.
Et qui n'était pas non plus dans Duel, quoi.
Non, ouais, tout à fait. Non, Duel, tu récupérais des cartes merveilles toutes faites, en fait, c'était des cartes bonus.
Et en plus, elles sont physiquement toutes différentes, en plus d'avoir des bonus différents, bien sûr, mais elles sont physiquement toutes différentes, et même, elles ont des mécaniques de construction différentes. Il y en a certaines qui ont un deuxième étage sur trois piliers, d'autres sur deux piliers.
T'avais une extension de Seven Wonders qui faisait un peu un truc. C'était Babel, je crois, où tu mettais des...
Oui. C'était une espèce de merveille commune que tu construisais. T'avais un aspect un peu.
Mais où il y avait ce côté un peu mise en scène et construction matérielle.
Oui,
je crois.
Oui, tout à fait.
La thématisation est, je trouve, plus intéressante là-dedans, au-delà de la. Et après, juste, moi, j'aime bien Seven Wonders. C'est pas un jeu de cœur. C'est un jeu très important, effectivement, sur son pitch de un jeu de civ en 30 minutes et simultané, et que tu joues à 2 ou 7, c'est 30 minutes. Je trouvais ça fort comme proposition. Après, en termes de jeu, il a marqué son époque. Peut-être qu'il a un peu vieilli et tout, mais Seven Wonders Duel, il y a eu un pour et le contre dessus, que je le mets pas au Panthéon, comme c'est pas une blague sur l'extension, mais comme d'autres. Mais c'est un jeu que j'aime bien, que je trouve... Bah en fait, moi, j'aime beaucoup les jeux à deux qui sont souvent assez tendus, et Seven Wonders Duel l'est. J'aime bien l'idée de... C'est important de se dire la relation qu'on a déjà au Seven Wonders de base, parce qu'en fait, si tu détestes Seven Wonders et Seven Wonders Duel, effectivement, tu trouves que c'est nul, les mécaniques de... Il y a la science, il y a les militaires, bon, même si elles sont implémentées un peu de manière différente, hein, tu vois, le tir à la corde de Duel est vraiment spécifique sur le militaire, c'est sûr que c'était complètement...
Voilà, le déclenchement du militaire est assez spécifique aussi, c'est vrai qu'on l'a pas abordé, mais le déclenchement du militaire ici, c'est... Il y a des petits symboles de trompette, là, le fameux to-do, et en fonction du nombre de joueurs, quand il y a un certain nombre de trompettes qui est sorti, on déclenche une bataille. C'est pas à la fin de chaque âge, comme c'est le cas sur le premier, et c'est pas un tir à la corde, effectivement, comme c'est le cas sur le duel.
Bah, il n'y a pas d'âge, d'ailleurs, il n'y a pas de manche, il n'y a qu'une seule manche.
C'est vrai, tout est fluide.
Ça, c'est différent aussi, ouais. C'est différent aussi.
Et on fait à peu près 4-5 batailles, on va dire, dans une partie de Seven Wonders Architect, je dirais.
Ouais, ça dépend du nombre de joueurs, en fait, ouais. C'est toujours pareil. Mais oui, enfin non, ça dépend pas du nombre de joueurs.
Ouais, parce qu'on augmente le nombre de jetons.
Parce qu'il y a l'équilibrage du nombre de jetons. Mais oui, 3-4, je dirais.
Et par contre, effectivement, ben, moi je trouve que... Alors, Seven Wonders, je sais pas ce qu'est l'essence de Seven Wonders. Pour moi, c'est effectivement le jeu de civilisation que tu joues en 30 minutes et le côté très simultané qui permet ça. Avec le draft, Seven Wonders Duel, j'ai pas l'impression qu'il ait une essence pure, c'est Seven Wonders, mais à deux, avec Catala qui vient poser ses trucs. Et dans Architect, j'arrive pas à dire ce que c'est que l'essence non plus, tu vois, du jeu. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que l'essence de Seven Wonders Duel et Architect, c'est Seven Wonders, mais, tu vois, mais quelque chose. Et que autant Seven Wonders avait une proposition ludique réelle, forte, de quelque chose de nouveau à proposer, alors que Seven Wonders Duel et Architect sont des déclinaisons, ce qui est pas grave hein, dans l'absolu, mais tu vois qu'ils arrivent pas avec l'envie de proposer quelque chose de vraiment nouveau, ludiquement parlant peut-être.
Tu parles de l'innovation dans le monde du jeu de société, c'est ça?
Non, pas forcément.
Mais... je te rejoins là-dessus, mais c'est pour ça que c'est des Seven Wonders en fait. Enfin, je pense que s'ils avaient voulu... Enfin, tu vois, si...
Oui, ils l'auraient pas appelé Seven Wonders.
Voilà, ils avaient voulu apporter quelque chose de très différent, ça se serait pas appelé Seven Wonders. Donc là, je suis d'accord avec toi, mais je trouve... Enfin, c'est logique, forcément.
Oui, c'est pas une critique.
Seven Wonders Duel et Seven Wonders Architect sont des déclinaisons de Seven Wonders. De Seven Wonders. Duel est la déclinaison de joueurs et Architect pour moi est la déclinaison accessible grand public de Seven Wonders.
Mais c'est vrai que tu vois, ouais, j'arrive pas à voir l'essence en dehors de Seven Wonders, mais alors que il y a vraiment Seven Wonders apportait quand même quelque chose et je pense que dans des déclinaisons tu peux quand même apporter quelque chose, tu vois. Moi j'aime pas Splendor Duel pour plein de raisons, mais il apporte une façon de prendre les trucs qui est complètement différente et qui change drastiquement en fait le système de jeu quoi.
Bah tu vois moi j'ai alors enfin moi je
même si tu vois que c'est un Splendor sur d'autres points mais
ouais bah moi j'ai pas trouvé tu vois justement enfin j'ai bien aimé Splendor Duel hein, mais en fait pour moi l'expérience de jeu était pas suffisamment différente d'un Splendor à deux, surtout que en fait Seven Wonders la version duel se justifie beaucoup plus par le fait que en fait c'était pas jouable à deux, ou alors il y avait une variante qui était un peu moisie, mais Architect aussi hein, à deux c'est beaucoup moins
moi j'aime
moins
bien la variante
de
Seven Wonders. C'est le moment de l'avouer.
Ouais.
Ça va quoi, je sais que je fais partie des minoritaires. Bah,
moi j'aime bien quand une déclinaison d'un jeu se justifie au-delà de juste on fait vendre parce que c'est un jeu qui se vend, tu vois. Pour moi le Splendor Duel, il est certes cool, mais j'ai plus cette sensation de on fait un duel parce que Splendor ça a bien marché et que c'est la mode de faire des jeux duels, tu vois.
Évidemment, ouais. Dorf romantique
alors que sur Seven Wonders, je trouve que Donc on va mettre entre parenthèses les extensions, mais sur les jeux principaux, les deux fois j'ai trouvé que c'était pas que ça se justifiait au-delà de on fait du ré la gamme, tu vois. Sur le duel, ça se justifiait parce qu'effectivement la version classique marchait pas bien à deux, même si certains l'aiment bien la variante, mais je l'entends. Et sur le architect, je pense que ça se justifie aussi parce que j'ai l'impression, hein, parce que le jeu se démocratise sur un public de plus en plus hétéroclite.
Oui, on n'a pas du tout le même public en 2021 qu'en 2010.
Et le Seven Wonders de base sur un certain public, c'est quand même, enfin, il est accessible, mais il est quand même un peu retors. Hein. Il y a plein de trucs difficiles
même le
à intégrer.
Ouais, la notion de draft déjà. Ouais.
La notion de draft, la notion de ressources que tu as, qui ne sont pas matérialisées, que tu as un peu en permanence. Enfin, ça, les gens à chaque fois ont du mal à apprendre ça. Enfin,
même les habitués des jeux de gestion, où tu sais, en général, tu les as et tu les dépenses alors que
tu les dépenses, là tu les as et tu les dépenses pas. Tu sais pas combien t'en as.
Il faut quand même que t'en aies.
C'est ça. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Et donc pour moi c'était un peu naturel que cette déclinaison arrive. Et en plus je trouve le timing pas trop mauvais en fait, parce que voilà. Je trouve les déclinaisons juste. Enfin je trouve l'effet de gamme et les déclinaisons justifiées par rapport à ce que les déclinaisons proposent justement.
Ouais clairement. Enfin c'est. Mais moi j'adore les déclinaisons, que ça soit bon ou pas, parce que effectivement c'est intéressant de. Tu vois pareil pour Tigre Euphrate qui a évolué en Chine, qui a évolué en Yellow et Yangtze et tout. Surtout que Knizia, c'est un grand habitué de réutiliser ses propres trucs et de les décliner.
Lui, il utilise ses propres mécaniques et pas forcément dans des gammes, tu vois. C'est,
oui, en plus, mais Chin, tu vois, c'est vraiment une déclinaison de Tigre et Euphrate. Ça pourrait être Tigre et Euphrate architecte, tu vois. Enfin, c'est pas architecte, mais moi, j'adore ça, en fait. Encore une fois, que j'aime ou pas, c'est pas très important. J'aime bien voir comment quelqu'un reprend.
Mécanique, ouais.
En fait, ce qui reprend de l'idée cœur. Parce que du coup, ça te donne un regard rétroactif sur le jeu d'origine. Parce que pour moi, Seven Wonders, encore une fois, l'essence, c'est un jeu de Civ en 30 minutes. C'est-à-dire avec le côté collecte de ressources et tout. Et en fait, j'ai pas l'impression que ce jeu de Civ en 30 minutes, ce soit le cœur qui a été repris dans Duel ou dans Architect. Mais pour autant, t'arrives à retrouver que c'est un Seven Wonders quand même. Ça veut dire que finalement, le cœur du premier Seven Wonders, c'est peut-être pas le draft et le truc. C'est peut-être justement ce truc science, ce truc...
Le thème, ouais.
Et moi, je sais que j'adore, en termes d'analyse, tu vois, et moi, je m'en fous de parler d'un jeu que j'aime ou pas, j'aime bien parler des jeux. Et je trouve que les gammes, de manière générale, permettent de facilement produire du discours sur des jeux, parce que tu peux parler des différents jeux de la gamme, de est-ce que c'est pertinent, est-ce que tu retrouves certains trucs.
T'as un repère pour faire la comparaison, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Parce que, effectivement, c'est plus facile de...
Et je trouve que dans Seven Wonders, effectivement, tu perds plein de trucs, et pourtant... Enfin, tu vois, tu perds le chaînage, tu perds le draft, tu perds le côté jeu de Civ.
Et tu perds la durée de partie aussi, qui est fixe, qui est assez connue à l'avance pour un Seven Wonders original, alors que là, bah, ça va dépendre vachement du nombre de joueurs, et ça va dépendre aussi du rythme de la partie. Si tu bourrines à fond sur ta merveille, et que tu joues à 3, tu peux terminer la partie, je pense, en 10 minutes. Alors que si tu te mets à construire un moteur de verre, si tu fais un peu de rouge, tu peux, même à 3, tu peux pousser à 20-25 minutes, je pense. Et puis alors, si tu joues à 7, et que chacun y va de la construction de son moteur, tu peux jouer une heure, à mon avis, architecte. Je sais pas, j'ai pas joué à 7, mais ça peut être, à mon avis, très long.
Ça peut être un peu plus long, ouais.
Après, le 7, je pense que c'est pour le gimmick aussi, hein, qu'ils ont mis 7. Mais...
Oui.
Après, ils ont pas fait Seven Wonders Duel qui se joue jusqu'à 7, heureusement.
Mais tu peux, il y a 7 boîtes. Donc,
c'est vrai, tu peux. Mais non, mais du coup, ouais, je trouve ça intéressant de voir comment, malgré tout ce que tu retires au jeu de base, ou ce que tu retires à Duel, bah, t'es quand même en terrain familier quand tu connais Seven Wonders, et à quel point l'effet de licence est fort,
ouais.
Bien plus que encore une fois, Antoine Boza ou que Repoprod. Il arrive quand même à garder une essence. Et ce qui est intéressant, c'est que Seven Wonders ou Seven Wonders Duel, sans que ce soit mes jeux préférés, je les aime bien, et celui-là, je l'aime pas. Alors en fait, ça force à se poser la question du... Mais pourtant, c'est un Seven Wonders.
Pourquoi ?
Qu'est-ce qu'ils ont retiré qui faisait que j'aimais bien dans Seven Wonders ou quoi ? Et ben du coup, ce que j'aime dans Seven Wonders ou Duel, c'est pas le côté science. Dans Duel, je pense que c'est le truc militaire. Le côté science, finalement, je le trouve plus quelque... Enfin, tu vois, c'est intéressant parce que ça te permet de voir... Ah ben en fait, ce que j'aime dans ces jeux-là, c'est pas ce qui reste. C'est ce qu'il y avait et qui a été retiré. Et ça, c'est permis par le fait que tu sais que t'es quand même dans Seven Wonders. Alors que si, effectivement, t'es dans un tout autre jeu, tu peux pas te dire ah mais attends, pourtant c'est le même jeu, enfin je retrouve des trucs, mais pourtant je l'aime pas alors que les autres je les aime. Et enfin je trouve ça intéressant en tout cas, ouais.
Il y a aussi un effet qui est très différent dans Architect, c'est que tu ne vas pas garder toutes les cartes devant toi, parce que dès que tu vas les utiliser pour soit construire un bout de ta merveille, soit bah, résoudre du militaire, soit choper un jeton vert, bah, en fait tu défausses tout. Donc tu perds, tu te dépouilles en fait. Donc ça peut être aussi une sensation de jeu très différente des deux autres, où tu collectes des cartes. Tu collectes même une carte à chaque tour, hein, c'est assez invariable. Tu construis ton tableau et à la fin de la partie, tu regardes ce que tu as construit et tu as l'impression d'avoir bah, construit une sorte de petite cité, un petit quelque chose. Il te reste quelque chose. Alors que Seven Wonders Architect, à la fin, il te reste des points.
Il te reste la merveille, puis, en fait. Il y a ta merveille.
Il te reste ta merveille.
Effectivement, la merveille est beaucoup plus centrale que dans les autres Seven Wonders.
Qui n'est pas forcément fini, mais voilà, il te reste pas grand chose de tout ce que tu as looté comme carte.
Mais, alors je suis d'accord, mais c'est vrai que du coup, là, ça souligne quelque chose quand même. C'est que c'est le premier Seven Wonders où la merveille est à ce point central, puisque dans les autres, en fait, la merveille est finalement assez secondaire. Au mieux, elle t'oriente un peu sur ta stratégie de jeu,
ouais.
Mais c'est vraiment pas un élément central du jeu. Ouais.
C'est un élément de jeu plus que le truc que tu vises, quoi. Ouais.
Oui.
Bah, c'est pas mal, ça, comme conclusion, de dire que dans Seven Wonders Architect, il y a plus d'importance donnée à la merveille, qui est quand même le premier titre du jeu, que dans les autres Seven Wonders.
Ça.
C'est quand même déjà pas mal. Voilà.
Alors que dans le premier, c'est une civilisation, ouais.
Et ouais. Bon, est-ce que il est temps de maintenant de siffler la fin de la partie? Est-ce que ça vous va?
On peut, ouais.
Tout le monde. Il y aura
une
petite conclusion.
Finalement,
pour
non,
chacun.
C'est pas une heure. Hein.
Ouais, c'est voilà. Donc, chacun va avoir droit à une petite conclusion. Non interrompu par son adversaire, même si ça démange l'autre. Hein. Donc on va commencer par BNOFX, et puis Flavien, tu auras le dernier mot du débat. Alors BNOFX, est-ce que ce débat a fait évoluer un peu ton avis ou pas?
Pas vraiment, mais je suis d'accord avec les arguments de Flavien. Hein. Je comprends la frustration qu'il peut y avoir ou l'ennui qu'il peut y avoir. Je pense que c'est aussi une question de culture ludique et de cible. Moi, j'arrive à prendre du plaisir, mais c'est vrai que c'est pas un jeu non plus que je veux absolument sortir. Mais en tout cas, sur la cible et sur le public, je pense pour lequel il a été calibré, c'est efficace, ça marche bien et il y a quand même plein de petits trucs malins que je trouve intéressants et qui en font une super introduction au jeu moderne.
Ok, et ben merci BNOFX, à toi Flavien pour ta conclusion.
Ouais, ben moi ça c'est pas un jeu que j'aime, comme dit, j'y reviens de temps en temps parce que j'aime bien voir. Au moins ça me pousse à y revenir en fait, alors qu'il y a des jeux que j'aime pas et auxquels je reviens pas, soit parce qu'effectivement ils ont pas eu de succès, alors que celui-là il y a quand même eu des récompenses et pas mal de je crois pas qu'il, je sais pas, Repoprod nous donnera pas le chiffre des ventes, j'imagine il pourrait, mais j'ai pas l'impression qu'il ait marché autant qu'un Seven Wonders alors Seven Wonders a 10 ans derrière, ouais, ou qu'un duel même.
Non, mais je pense que les 37 euros aussi, ils sont pas... Enfin, là, tu as évoqué ça au début, je pense que c'est pas non plus étranger au fait que ça se soit pas vendu comme des petits pains, comme aurait pu le faire un jeu plus... Comme peut le faire un Just One, tu vois, qui est moitié moins cher.
Ouais, ou même un duel, tu vois. Enfin, duel, il y a quand même eu assez rapidement des extensions. Là, on est 2 ans après, il n'y a pas encore d'extension officiellement annoncée. Il me semble que l'année dernière, donc il est sorti en octobre 2021, il a eu l'As d'or, dans certains tops de vente de boutique, je ne l'ai pas vu dans les tops de l'année.
Ouais,
dans
mais
les
après, il y a des jeux qui font des... Enfin, tu vois, je veux dire, un aventurier du rail n'est jamais dans les top 10, mais en fait, il y a une vente de fonds plutôt dans les GSS, dans les grandes surfaces spécialisées, etc., ce qui se fait. Et effectivement, tu le vois pas forcément sur du Philippe, enfin sur des boutiques spécialisées. Mais...
Philibert ou le passe-temps, moi, ouais. C'est notamment la vidéo du passe-temps qui m'avait un peu étonné sur le fait qu'il soit même pas dans le top 10, quoi.
Ouais.
Alors qu'il a eu l'As d'or.
Ouais, mais est-ce que les gens qui fréquentent ce genre de boutique achètent du Seven Wonders Architect? Pas forcément, tu vois.
Mais du coup, ouais, moi, c'est vraiment la question. C'est un jeu intéressant, du coup, parce qu'il y a toute cette filiation avec Seven Wonders qui permet un peu d'analyser de pourquoi est-ce qu'on aime bien celui-ci ou pas. Moi, je sais qu'il y a vraiment le rythme qui m'ennuie et que j'arrive pas à sortir du truc, ou j'arrive pas à avoir de prise sur le jeu, en fait. Et je trouve qu'Antoine Boza, dans ses jeux, entre guillemets, les plus simples, j'ai vraiment du mal à chaque fois. Autant Tokaido ou Takenoko, ça va, mais on est déjà dans le niveau un peu au-dessus. Si je prends Tokaido Duo, ben, j'ai un peu le même problème. C'est vraiment un des jeux qui m'a le plus ennuyé l'année dernière, où en fait, c'est simplifié. En fait, c'est hyper simplifié pour correspondre au public visé, entre guillemets, par l'éditeur ou par l'auteur.
Et dont tu ne fais pas partie, si on comprend bien.
Si, si, c'est ça le problème. C'est que il y a une telle simplification qu'en fait, ça retire tout enjeu. Alors dans Tokaido Duo, je crois que c'est encore pire que dans Seven Wonders Architect, où en fait, t'as ni gratification de faire quelque chose, ni frustration de pas avoir réussi à faire quelque chose, parce qu'en fait, ça, c'est des jeux que je présente un peu comme des activités que je peux faire en faisant autre chose et où jamais je vais m'intéresser à ce que je fais et à aucun moment je vais réussir à avoir de l'enjeu. Là où il y a plein de jeux grand public, effectivement grand public, que j'adore. Et c'est pour ça que je dis la question de cible, en fait. Moi, je peux ne pas être la cible de tel ou tel genre ou telle mécanique. Typiquement, moi, la collecte de ressources là qu'il y a dans Secondary Architect, ça m'intéresse pas des masses, quoi. Enfin, le côté je prends des ressources pour construire des bâtiments qui me font des points de victoire, c'est pas ce que je préfère. Mais en termes de cible, tu vois, enfin, je trouve que le grand public a le droit à des trucs que moi, je vais juger plus intéressants. Alors, ça n'empêche pas que il y a plein de gens qui prennent du plaisir à la partie, et ça, tant mieux pour ces personnes-là. C'est-à-dire, c'est l'essentiel pour ces personnes-là. Mais en termes de jeu, moi, avant Seven Wonders Architect, ou à la place, il y en a plein que je trouve déjà plus accessibles, donc plus grand public, entre guillemets, mais surtout beaucoup mieux, quoi. Je prends un Cartagena, je prends tellement plus de plaisir, ou même un Lucky Numbers, tu vois, je citais, qui est encore plus accessible, mais en fait, il arrive à procurer des trucs que Seven Wonders Architect n'arrive jamais à me procurer, alors qu'il n'y a pas de thématique, alors que machin, alors que truc, un Can't Stop, tu vois, enfin, justement, moi, les jeux que je préfère, ça va être des jeux assez simples, je suis capable de jouer à du Root et tout, mais moi, mes jeux préférés, j'en ai parlé, j'ai des cryptos, j'ai Can't Stop, Lucky Number, c'est des jeux que j'adore, et qui sont potentiellement jouables, récemment, j'ai découvert Fairflix, le Two Can Do It, c'est incroyable, incroyable, et c'est des jeux simples, tu vois. Et même quand je développe des jeux, tu vois, j'ai fait Tricky War, c'est un jeu de bataille. Mais à la Challengers n'est pas un jeu grand public, mais pareil, tu vois, il y a un côté où, je sais pas, en fait, c'est les espaces de choix qu'on te laisse, les fenêtres de choix et la manière dont on te les propose, que moi, je trouve pas dans Seven Wonders Architect, et que je trouve que il y a tellement mieux, en fait, dans des jeux qui peuvent viser ce même public, entre guillemets, que du coup, ouais, tu vois, je vois pas l'intérêt... au-delà du fait d'une déclinaison de Seven Wonders en peut-être plus simple. C'est un peu mon petit souci avec Seven Wonders Architect, que je me dis, putain, tu récompenses l'Asdor alors qu'il y avait... Alors, c'était pas une année exceptionnelle, je crois, 2021 ou 2020, mais... Non, il l'a eu en 2022, donc 2021, c'est vrai qu'après, j'avais regardé. Mais si, t'avais Momalin qui était sorti. Quand même, ça fait un meilleur Asdor.
Merci Flavien, en tout cas on est rassuré parce qu'il y a plein d'autres jeux que t'aimes bien et auxquels tu peux satisfaire toutes tes envies ludiques en dehors de Seven Wonders Architect, donc on est rassuré, voilà, tu te porteras bien. Bon, en tout cas, merci.
Allez,
à vous.
Tous ceux que j'ai cités, hein.
Merci à vous deux pour ces échanges, hein, qui permettront à n'en point douter à nos auditeurs et auditrices de se
Mais toi, t'en penses quoi de ce jeu, Peter?
Ah, moi je suis neutre, moi.
Merci à toi.
Moi je suis neutre, mais avec en suivant tous ces échanges-là, je ne sais plus quoi en penser, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Là, maintenant, j'ai surtout envie de m'en refaire une partie pour voir vraiment ce qu'il en reste, quoi. Parce que ça fait peut-être, bien six mois que j'ai pas rejoué à Seven Wonders Architect, donc il faudrait que je m'en refasse une petite partie. Bref, donc peut-être que les auditrices et auditeurs qui connaissaient pas le jeu ont une petite idée de ce jeu, peut-être que comme moi, vous avez envie de le tester, peut-être que vous aviez déjà envie de le tester avant, et puis ceux qui le connaissaient déjà, peut-être ça a fait évoluer votre position sur ce jeu, peut-être que vous aurez envie de le ressortir pour en faire une petite partie, afin de vérifier lequel des deux était le plus de mauvaise foi, hein, entre Beno FX et Flavien. Moi, je suis incapable de départager qui était le plus de mauvaise foi, hein, je pense qu'il y en a avait autant des deux
côtés.
Voilà.
Je pense que ça allait. Hein.
Oui.
Que vous ayez aimé ou non cette émission, faites-le nous savoir en commentaire sur le billet accessible sur le site web de Proxy Jeux, donc proxy-jeux.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous aurez alors peut-être le privilège d'être cité en introduction de la prochaine émission, qu'on espère faire plus que 3 commentaires. Hein. On espère qu'il y a beaucoup d'auditrices et auditeurs qui connaissent ce jeu et qui vont avoir envie de mettre leurs petites graines là-dedans. Leur pierre à l'édifice, évidemment, je fais le jeu de mots, hein, vous l'avez, merci. Voilà. Voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, X, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, et nous rejoindre pour des échanges animés sur le Discord de Proxy Jeux. Mais surtout, parlez de nous autour de vous. Et vous pouvez aussi nous envoyer un courrier électronique, on ne le dit pas assez, mais c'est possible aussi, à l'adresse, c'est contact@proxy-jeux.fr. Vous pouvez nous soutenir en devenant donatrice ou donateur via PayPal, donc donateur régulier ou ponctuel, par virement bancaire aussi, pour en savoir plus, contactez-nous tout simplement. Il est désormais l'heure de vous dire au revoir, on se retrouve dans 2 mois pour un prochain Le Pour et le Contre, et en attendant,
jouez bien.